Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux en glissant sur le derrière. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
J'ai envie de casser la routine comme ça, j'ai envie de changer des choses et... Pour ce début d'émission, je ne vais pas vous parler du Patreon, je ne vais pas vous dire que vous pouvez nous soutenir sur cette page en moyennant simplement 1 euro, 2 euros, vous. Et je ne vous dirai pas qu'il suffit de s'inscrire très simplement. Bref, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Je peux vous mettre dans la confidence.
Sachez
que ce matin, il y a eu un brainstorm absolument monumental au sein de cette équipe.
On a passé plusieurs heures à réfléchir à tout ça.
Incroyable.
Non, mais voilà, c'est un feu d'artifice. Et du coup, je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont arriver dans Fin du Game. Voilà, je saupoudre vos esprits de ça. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être. Un nouveau palier, peut-être de nouvelles choses. Voilà, ça a été très prolifique ce matin, donc tenez-vous prêts. J'ai envie de vous dire tout simplement, tenez-vous prêts.
Comme on dit dans le milieu, lourd.
exactement, je n'aurais pas dit mieux moi-même. Autre petite chose qu'on ne dit pas souvent par contre, on est encore dans ce truc de casser la routine, hein. Vous pouvez partager l'émission, déjà ça c'est important, parlez-en autour de vous. Vous avez votre beau-frère qui aime les jeux vidéo, eh bien n'hésitez pas à lui parler de Fin du Game.
Et votre collègue Jean-Roger.
Oui, hein, il aime le jeu vidéo, bien sûr. Aussi. Votre petite sœur qui a maintenant désormais 23 ans, elle joue aussi aux jeux vidéo, eh bien elle peut aussi écouter Fin du Game. Voilà, partagez l'émission, c'est vrai que c'est aussi une manière de nous soutenir directement et pourquoi pas aussi, n'oubliez pas de noter dans les applis, hein, les applis où on peut noter les podcasts, le petit 5 étoiles qui nous fait remonter dans les classements et voilà, qui fait rayonner cette émission.
Et qui nous fait rester en première place.
C'est vrai. Sûr, alors, oui. Il me semble qu'il y a une espèce d'émission d'Europe 1, là, qui s'est...
Voilà. Eux, ils sont installés, tu vois, c'est l'establishment.
Les industriels qui veulent écraser les petits artisans.
Oui, on la connaît. Hein.
Très bien. En parlant de petits artisans, sachez que cette émission est sponsorisée par d'édition, la maison d'édition qui est spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que,
d'ailleurs, il y a un livre. Alors, pour tout vous dire, en fait, j'ai pas les consignes parce que nous sommes le 2 novembre, là on enregistre le 2 novembre. Hier c'était férié, j'ai envoyé mon mail parce que oui, moi je bosse le 1er novembre, mais pas les gens dans l'édition. Vraisemblablement, ces gens peuvent poser des congés, des trucs comme ça, je ne sais pas. Et donc on n'a pas les infos, mais on sait juste qu'il y a un livre sur Quentin Tarantino qui est arrivé. Quentin Tarantino, un petit cinéaste comme ça qu'on connaît assez peu finalement.
Ouais. C'est quoi, il voulait tuer Bill, après il y avait une histoire
un
où il voulait...
comme ça...
Tu sais, à un moment, il fait de la boxe, là, et il y a Travolta, tu sais, il cherche dans son portefeuille quand il n'a pas d'argent.
Ah oui, le même.
Et il danse avec en chaussettes.
Et il danse. Ouais. C'est Tarantino. C'est le cinéma de Quentin Tarantino. Donc voilà, bouquin, j'imagine, qui retrace la carrière du cinéaste. Et puis, toujours d'autres livres qui viennent d'ailleurs d'arriver dans mes mains. Les Wachowski, l'œuvre des Wachowski. Ouais. Hein, donc Matrix, tout ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai aussi Hayao Miyazaki.
Oui, qui n'est pas nouveau pour le coup. Mais
non, lui, il est sorti il y a quelques années. Mais
c'est ton cadeau de Noël de l'année dernière, je crois.
C'est ça, j'avais demandé ça. Et je l'ai reçu
aussi
aujourd'hui.
Sur les Pokémon, hein, génération Pokémon, 20 ans d'évolution.
Mais ça, c'est le travail.
Mais ça, c'est pour du travail, exactement.
Effectivement, vous
êtes au
courant.
Car vous le savez, vous êtes sur le serveur Discord avec nous. Et si vous ne l'êtes pas, rejoignez les plus de 6000 personnes. Merci beaucoup qui nous ont rejoints sur ce Discord de Fin du Game, le club de lecture. Qui est ouvert à tout le monde.
Oui, parce qu'on est comme ça, on est ouvert à tout le monde et c'était vraiment une belle intro. On va la conclure très simplement. Aujourd'hui, on va parler de Vanquish. On va partir sur un générique. Le choix n'a pas
alors,
été fait.
Il y a des musiques de Pulp Fiction qui sont très bien. Hein. Si jamais non, on n'a pas d'idée.
Il faut dire que la BO de Vanquish.
Oh. Ouais.
Comme
ouais,
on dit dans le milieu, éclaté.
Éclaté au sol. Éclaté en glissade.
Dans le doute, je vais demander sur le Discord s'il n'y a pas des fans de la BO de Vanquish qui ont un petit morceau à proposer.
Oui, parce qu'on ne voudrait pas vous vexer. Mais nous, on a écouté et bon, c'est un peu générique pour MP3. Hein. C'est vraiment compliqué.
Mais en fait, on vous propose d'écouter ça par vous-même, tout simplement.
On est désolé et restez avec nous.
Thank you. Vanquish, c'est donc sorti le 19 octobre 2010, c'est sorti sur PS3 360, oui, c'est du jeu rétro, hein. on est complètement dans cette phase-là, et puis c'est sorti en 2017 sur Steam, c'est un peu le moment où Sega, justement, commençait à bombarder un peu le PC de toutes ses licences, je crois qu'il y a Bayonetta aussi qui a dû arriver,
oui, voilà.
Et puis il y a les Yakuza, des choses comme ça qui sont aussi arrivées, bref, c'était un petit peu à ce moment-là, c'est édité donc par Sega, ça vous l'avez compris, c'est développé par Platinum Games, et sous la direction de Shinji Mikami. Et justement, peut-être pour commencer l'épisode, peut-être qu'on peut voilà,
pour commencer, on va te féliciter parce que tu n'as pas dit Platinum. Et
oui,
tu as dit Platinum.
Non, mais je. Voilà. Je sais,
et non, mais ça, c'est super important.
On m'avait engueulé et maintenant, je ne veux pas.
Engueulé, tout de suite, tout de suite.
Il y a au moins une personne qui avait fait la remarque pour l'épisode Nier Automata et forcément, on l'avait noté et
je
vous écoute.
Je suis désolé. Voilà, donc Platinum Games, Shinji Mikami. Shinji Mikami, qui c'est? Qui c'est, Benoît?
Eh bien, écoute, alors, les enfants, Shinji Mikami, ben, en fait, il a commencé chez Capcom et c'est tout simplement le papa de Resident Evil. Une petite franchise, une petite licence. Voilà, un petit truc, Mila Jovovich, tout ça, quoi. On en a déjà parlé, puisqu'on avait fait un épisode sur le remake de Resident Evil 2 dans l'émission. Donc ça, évidemment, on vous invite à l'écouter. Lui, en fait, il va vraiment poser en fait, ce concept de survival horror. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des jeux qui existaient avant. Mm. Oui, il y avait Alone in the Dark et tout. On pense à vous en France. Mais le fait est que Resident Evil, ça a quand même beaucoup marqué l'époque PlayStation. C'est une licence qui est très rapidement devenue un des gros piliers, justement, de Capcom. Lui, il va pas forcément bosser sur la suite, hein. Il va pas bosser sur le 2, il est parti sur d'autres jeux. Par contre, il va revenir avec Resident Evil 4.
Et là, de nouveau,
festival, masterclass, comme on dit.
Oh putain, mais c'est un épisode pour les jeunes, en fait, qu'on est en train de faire.
Non, mais attendez, lourd. Moi, je me suis acheté un petit bouquin du comment faire croire que vous avez pas plus de 30 ans, tu vois. Et ben, c'est très utile.
Et du coup, il a bossé sur les épisodes mineurs, hein, Resident Evil 1 et 4. Oh, des anecdotes.
Les petits épisodes. Bah, en fait, entre-temps, il a fait Dino Crisis, hein, donc qui était une sorte de
Resident
Evil avec des dinosaures. Hein. Et donc, le 4, voilà, qui a redéfini un petit peu la série avec une orientation plus action. Voilà, la fameuse caméra à l'épaule. Même si, Maxime le fait remarquer, hein, Splinter Cell le faisait.
Oui, bien sûr.
Voilà, il ne faut pas réécrire l'histoire. Et puis, les QTE, enfin bref, il y avait tous ces trucs-là dans R4 et qui a vraiment été un énorme succès à l'époque et pour Capcom c'était vraiment je crois que c'était à l'époque ça devait être l'épisode qui a vraiment fait exploser qui a commencé à péter les scores et en fait le souci c'est que pour Shinji Mikami c'était peut-être pas sa meilleure période parce que en même temps en fait il était tellement important chez Capcom qu'ils l'ont mis sur tous les projets, il était même producteur sur plein d'autres jeux qui sont sortis à peu près sur cette même période, donc il a pu se concentrer quand même sur Resident Evil 4, mais je crois qu'il était aussi producteur sur Beautiful Joe, sur d'autres trucs, c'était les Capcom 5, hein, je crois que
oui, c'est ça.
Il chapeautait tout ce truc-là, et en fait, lui, ça lui pesait beaucoup.
J'imagine l'équipe de Sentai là, qui arrive comme ça, les Capcom 5,
oui, vraiment,
c'est jaune,
vraiment,
c'est à cause de France 5,
le marketer. Mais, et donc, lui, il était un peu éreinté, il avait surtout envie de vraiment créer des jeux vidéo, et on sent qu'il y a eu un petit peu une scission qui s'est fait avec Capcom, et c'est à ce moment-là, donc, qu'a été fondé le studio Clover Games, qui était à la fois pour travailler sur le portage de Beautiful Joe sur les autres consoles, puisque finalement, hein, tous ces Capcom 5, hein, il me semble que c'était justement, ça devait sortir que sur GameCube, et en fait, ça a été porté sur les autres consoles par la suite, parce que bon, il y avait quand même du blé à se faire sur la PlayStation 2.
La GameCube, voilà, c'était un peu. C'était pas les meilleurs jours hein, de Nintendo.
Pas son plus gros succès.
Et à côté, la PlayStation 2, c'était quand même plus intéressant de sortir des jeux dessus, hein, ça, clairement.
Effectivement, donc Clover Games, qui est pour le portage, mais aussi pour le développement du 2, et finalement, de fil en aiguille, va se créer cette idée d'une entité un peu créative, et surtout pour donner un peu plus d'indépendance à Shinji Mikami qui râlait un peu au sein de Capcom, lui dire ok, on va te laisser un petit peu tranquille, tu vas pouvoir faire tes jeux et donc on va te donner un petit studio, les moyens pour le faire. Et de ce studio sortira deux titres. Le premier, c'est Okami. Là, c'est pas Mikami, c'est Kamiya, donc Hideki Kamiya, qui était celui qui avait bossé sur Resident Evil 2, qui avait aussi créé Devil May Cry. Donc voilà, ça c'est lui. Et l'autre jeu, eh bien, c'était God Hand, qui était un jeu. Benoît, est-ce que tu peux nous en parler?
C'est
un
jeu un peu pas expérimental, faut pas. Mais c'est vrai que c'est un jeu un peu à part, rien que dans le ton, on est dans du second degré, 3e, 4e degré, complètement absurde. Mais l'idée était intéressante parce que c'est un jeu donc de beat'em all où on va taper sur des méchants, mais en fait, on va choisir nous-mêmes ses coups, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider d'utiliser plutôt tel type de kung-fu, tel type de coup de pied, tel type d'attaque, on va les débloquer, on va pouvoir créer ses propres combos, et du coup c'est très fun. en termes de visuel, vraiment, ouais, c'est très particulier.
On vous invite à aller
plus,
jeter un œil.
C'est un jeu qui n'a pas vraiment été développé par Clover, en plus, ouais, parce qu'ils étaient déjà très occupés avec Okami, ouais, donc ils ont beaucoup sous-traité. Ça se ressent, c'est un jeu
en
qui
12
quand
mois,
même,
il a ouais, été fait ouais, vraiment en 12 mois, donc ouais, fait très très
vite. C'est plus sympa pour le côté, on va dire, c'est plus sympa pour l'idée de game design qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'idée de contrôler soi-même un peu les combos, etc. Mais voilà, c'est pas un jeu que je pourrais vous recommander les yeux fermés, même si voilà, j'ai un petit peu d'amour pour celui-là, mais regardez à quoi ça ressemble si vous connaissez
en fait,
pas,
même,
c'est rigolo.
Même pour lui, c'est un jeu particulier, c'est-à-dire que justement, il avait fait Hero 4 en mode « Ok, je vous ai donné un grand succès Capcom, donc maintenant vous me laissez faire ce que je veux, je vais faire mon petit jeu exactement comme je le veux. » Lui, dans une interview là sur la chaîne Archipel, il dit que limite, il avait choisi une personne dans son staff et s'est dit « Voilà, je veux rendre le jeu fun pour cette personne, tant pis, ça se vendra pas, ce sera pas parfait, mais au moins je vais créer un jeu comme je l'entends. » Bon, évidemment, ça s'est très 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 mal vendu et bah, c'est d'ailleurs aussi ce qui a un petit peu participé à mettre Clover dans la panade, hein, puisque Okami non plus, ça a vraiment pas été un succès, malgré l'amour que voilà, beaucoup de gens portent à ce jeu, hein, ça a été un four assez monumental, et du coup, bah, Clover Games a fermé et Shinji Mikami, Kamiya et Atsushi Inaba, qui était le producteur en fait, qui était, qui était le CEO aussi de Clover Games, qui était donc un producteur qui travaillait chez Capcom depuis longtemps, ils se sont barrés, ils ont claqué la porte de Capcom pour fonder Platinum, et ils ont pu le fonder en faisant quoi ? En nouant un contrat avec Sega. Ils avaient l'obligation donc de produire 5 jeux pour Sega.
Encore une fois, ils ne se sont pas appelés les Big Five, mais ils font des grappes de 5 hein, en général.
Exactement, et donc parmi ces jeux, on les a notés, hein, il y a Mad World, l'épisode qui était le truc qui était sorti sur Switch là.
Sur Wii.
Ah oui, sur Wii, pardon.
Pas sur Switch.
Oui, tout à fait.
Oh, t'imagines, on vient d'annoncer le remake de Mad World sur Switch.
C'est pas sorti ?
J'en sais rien. Vraiment, j'en ai.
C'est possible
qu'il y ait
un portage.
C'est possible. C'est possible.
Bon, bref, on va pas commencer à faire des annonces. De toute façon, l'industrie s'en chargera pour nous. Si jamais on fait des annonces, l'industrie suivra. On leur fait confiance. Donc, il y a eu Mad World, il y avait eu Infinite Space, il y avait eu Bayonetta aussi.
Ça, on connaît bien.
Voilà, on connaît. Et donc, Vanquish et un autre jeu qui est Anarchy Reigns.
Voilà, ouais, qui était un jeu multi. Bon, qui est pas. Voilà, ça fait partie des jeux. C'est pas très grave si vous êtes passé à côté, a priori. Mais voilà, l'idée que c'est qu'avec Platinum, ils ont plus été connus pour faire des jeux de commandes.
Directement,
parce
ouais.
que, ben, évidemment, vous avez entendu parler de Nier Automata, mais ils avaient fait un jeu Korra, ils ont fait un jeu Transformers, ils ont fait un jeu les Tortues Ninja, enfin bref, ils ont fait pas mal de jeux, en fait, pour d'autres. Mais leur jeu à eux, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça, encore. Mmh. Et c'est vrai que leur licence la plus forte aujourd'hui, bah, c'est Bayonetta, je pense, très clairement.
Ouais, Bayonetta, bah, et Nier Automata, finalement.
Et Nier Automata, même si, bon, ils sont en collaboration avec Square Enix, donc ils sont pas non plus... totalement derrière le truc, quoi.
Et encore, Bayonetta, bon, si ça avait pas été financé par Nintendo, tu vois, il y aurait peut-être pas eu de deux. Quoi.
Non, mais ça, c'est sûr.
Ouais,
c'est,
ouais,
il l'avait dit à l'époque. Le jeu était sorti, d'ailleurs, sur Wii U,
comme ça.
En exclu. Et après, bon, c'est ressorti maintenant, ça, c'est sûr, sur Switch, etc. Mais c'est vrai que Bayonetta 3 et le 2, ça n'existerait pas sans Nintendo, très clairement.
Alors, on va revenir peut-être un petit peu sur Vanquish. À la base, Mikami, il pitche plein d'idées à Sega, parce que voilà, c'est un esprit créatif, prolifique, mais il n'y en a aucune qui passe. Alors, il en raconte quelques-unes, encore une fois, dans ce documentaire. Il voulait faire un Blade Runner en monde ouvert. Il voulait faire un jeu au style Ghibli, avec des gens qui se transforment en animaux la nuit, il y aurait une espèce de malédiction sur un village. Il a une autre idée, c'est une enquête dans un hôpital avec un tueur, et pour interagir avec lui, il faut utiliser un portable, envoyer des SMS. Bref, il a des idées un peu what the fuck, et chez Sega, il dit, bon, écoute, Shinji, tu te calmes un petit
peu. Tu montes dans le robot, Shinji.
Tu montes dans le robot, Shinji.
T'es obligé.
Et, ou alors, pas assez de budget. Et Vanquish est d'abord imaginé comme un hack and slash, un musou. Donc encore une fois, en monde ouvert, et d'ailleurs cette espèce de mécanique de glissade sur laquelle on va revenir un petit peu par la suite, bah, elle était là pour se balader en fait dans ce monde ouvert, pour se déplacer rapidement dans ce grand espace de jeu.
Je crois que c'est un jeu un peu stratégie aussi, il y avait une idée, tu devais gérer les combats et effectivement passer d'une zone à l'autre bah, de façon stratégique, de prix, avec tes priorités, et c'était peut-être avec des cordes ou quoi, je sais plus trop, mais oui, en tout cas tu te déplaçais très rapidement en tirant sur un truc, je sais pas, j'ai le souvenir, j'ai l'impression qu'il fait le mouvement avec ses mains.
Ouais, parce que vu que l'idée des Dynasty Warriors, les musos, c'est ça, c'est de se balader sur un champ de bataille et d'être une seule personne au milieu du champ de bataille, il y a toujours cette idée de comment on se déplace très rapidement d'un point de l'action à un autre, parce que bah, du coup, c'est nous qui faisons tout, en fait. Hein. C'est ça qui est sympa dans ces jeux-là.
Et du coup, voilà, c'est ça qui va rester, mais finalement, ils vont s'orienter vers un jeu beaucoup plus linéaire. Et pourquoi ? Parce qu'ils voulaient faire des beaux graphismes, tout simplement.
On ne rigole pas.
Non, on ne rigole pas, voilà, c'était vraiment son intention. Mais bon, faut se replacer encore dans le contexte, hein. C'est-à-dire qu'on est au début, là, vraiment, de l'ère PlayStation 3, 360. Il y a une exigence qui commence à se poser en termes de réalisme, de graphisme haute définition. Donc ils avaient quand même envie de se mettre
un peu le pas la Berezina, mais c'est quand même un peu compliqué. C'est le creux de la vague de l'industrie japonaise. Il y a beaucoup de réorganisations, beaucoup de rapprochements de studios qui vont se rapprocher entre eux avec Bandai, Namco, etc. Mm. Qui vont créer des nouvelles entités afin justement de proposer des studios qui ont assez de monde en fait à l'intérieur pour répondre aux exigences de la HD. Parce qu'en fait c'est ça qui est d'un coup les jeux ils sont plus jolis certes, mais ça veut dire qu'il faut d'un coup deux, trois fois plus de gens et de budget pour pouvoir les créer. Et bah ça l'industrie japonaise a mis du temps à s'adapter.
Et surtout voilà une entité comme Platinum qui est qui est petit, hein, c'est pas un gros c'est des gens qui venaient de Capcom, hein, c'est toutes des équipes, mais voilà c'est une fraction en fait de Capcom. Alors imagine il y a d'autres personnes qui ont rejoint le truc, mais c'est pas gros. Donc
oui non, c'est pas des centaines de personnes qui ont travaillé dessus quoi.
Donc ils ont dû faire ce choix là de la linéarité pour se dire ok ben on va quand même pouvoir mettre de l'argent. Et on sait que les background designers, on avait vu qu'il y en avait des tonnes,
beaucoup,
et tout, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait.
Mais on reparlera un petit peu du contexte, alors plus du cover shooter, mais le développement de Vanquish commence vers 2007, et tu vois 2007 bon bah il y a eu Assassin's Creed le premier, Uncharted 1, il y a les Gears of War, il y a, alors je sais plus quand c'est le premier Mass Effect, mais c'est à peu près dans ces eaux là. Bon voilà, en termes de des graphismes, de production value HD, bon il y a
de la confusion. C'est vraiment la période où l'industrie au côté occidental, donc vraiment États-Unis, enfin Amérique du Nord en gros, explose. Et vraiment ils poussent le truc du grand spectacle. Il y a eu Call of Duty Modern Warfare qui est déjà sorti, enfin voilà, donc on est quand même sur du gros jeu qui tâche, et donc visuellement c'est vrai que l'industrie Jap était un peu en retrait à ce moment-là.
Et donc l'envie de se mettre au niveau. Le jeu sort, on a un Metacritic qui est à 84.
Assez impressionnant.
Ce qui est propre. Le jeu a été bien reçu.
À noter que pour la version Steam qui est ressortie donc en 2017, on est un peu plus bas, on est aux alentours de 78, je crois.
On n'a pas trop fouillé là-dessus sur le pourquoi du comment.
Je pense qu'il y a eu un petit peu justement, je trouve ça intéressant parce que ça permet de voir que les années sont passées, donc on ne juge plus tout à fait les jeux avec les mêmes critères. Les mentalités évoluent. Mais à l'époque, le jeu est quand même très bien reçu.
Malgré deux reproches qu'on a gardé parce que qui était intéressant. Alors déjà, il y a toujours cette question de la durée de vie, parce qu'effectivement, Vanquish, c'est un jeu qui se termine en 4-5 heures.
3 heures si tu passes les cinématiques.
Ça va très très vite. Et aussi, qu'il y avait eu un autre reproche qui était vraiment symptomatique de l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de mode multi. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion de dire, c'est vrai qu'en 2010, beaucoup de jeux solo avaient leur mode multi. C'était vraiment un standard en fait.
C'est dans le cahier des charges, t'imagines, avec parfois d'autres équipes qui vont bosser dessus parce que là, il faut un mode multi. Mais parmi les jeux, on oublie un peu, mais Uncharted, il y avait du multi. BioShock 2 a eu son mode multi. Mass Effect 3 a eu un mode multi. Et donc,
Last of Us a eu son mode multi.
Et ça encore, c'est vraiment dans le côté les jeux solo, mais il y avait évidemment des jeux multi tout court, ou en tout cas des jeux où le multi est beaucoup plus attendu, donc notamment les Call of Duty.
Les Battlefields, c'est l'époque des Medal of Honor,
Gears of War, tout ça.
Qui est un jeu solo, mais effectivement le multi était assez connu. C'est peut-être un peu avant, mais les Halo, tu vois, les Halo, ils ont quand même leur mode.
Ça descend de ça, vraiment. Je pense que Halo, on l'a dit d'ailleurs dans notre épisode de notre émission, ça a posé un petit peu ce truc-là.
Sur console, exactement.
Et justement, sur console, sur la Xbox 360, il y a le Xbox Live qui est vraiment leur argument numéro un. Il faut encarter les gens, comme on dit, donc il faut les faire s'abonner. De leur côté, PlayStation, le PSN est gratuit à cette époque-là, souvenez-vous.
Il est encore gratuit,
Il était encore gratuit. Et du coup, ils voulaient quand même proposer des modes multijoueurs et du coup des modes multijoueurs sur leurs jeux first party parce que du coup, forcément, ils avaient envie de pousser le truc. Et tout le monde vient. Moi, je me souviens par exemple de. Je sais pas, il y avait alors d'autres jeux qui sont beaucoup moins connus, mais chez Arkane, il y avait Dark Messiah of Might and Magic. Et ils avaient fait un mode multi parce que Ubi les avait plus ou moins forcés à le faire et c'était une catastrophe. Ils avaient dû le ressortir. Enfin, il y a eu plein de jeux comme ça où le multi était devenu
forcé,
plus. C'était rentré au forceps.
C'était imposé.
Et c'était plus un boulet qui se traînait qu'une vraie nécessité. Mais parce que, à l'époque, il y a eu en fait plusieurs phénomènes. C'est que l'HD, ça a amené un rachat, tu vois, de tout le monde s'est réinvesti en termes de consoles, de télé, machin, et les jeux coûtaient plus cher. Il y a eu aussi encore une petite hausse du prix. Le jeu, il passe à 70 balles à ce moment-là, et du coup, il faut justifier entre guillemets parce que pour les gens, c'était devenu important.
C'était l'idée qu'on jouait au solo et ensuite on.
Parce que le jeu indépendant, à l'époque, il est encore embryonnaire.
Moi, j'en ai pas entendu parler, en tout cas, personnellement.
Il commençait à y avoir des petits trucs, mais on est sur les premiers jeux, les Castle Crashers, sur voilà, sur des petits trucs. On n'est pas encore sur des grosses claques indées avec des jeux où c'est devenu normal, en gros, entre guillemets, de payer 15-20 balles pour un jeu qui est moins gros que ces trucs-là.
Et on ne l'a pas encore dit, mais le jeu, c'est pas très bien vendu.
Ouais, effectivement, là, on est. Les chiffres, c'est simple. Donc, je l'ai dit, le jeu, il est sorti en octobre 2010 et en mars 2011. Il n'avait même pas. Enfin, il n'avait pas atteint le million. On était à 800 000 quelque chose. Sur la ressortie sur Steam, au bout de quelques mois, ils en ont vendu genre 150 000, un truc comme ça. Donc, aujourd'hui
on arrive au million. Donc voilà, je veux dire, chez Fin du Game, on choisit les jeux les plus connus.
Hein, tout simplement. Non, tout mais simplement. C'est vrai que voilà, c'est un échec commercial, hein, bon, comme tous les jeux, globalement. Hein,
à l'exception, du coup, de
Nier Automata. Qui est un peu la surprise.
Voilà, mais... C'est parce qu'on le retient pas que pour Platinum. C'est pas un jeu 100% Platinum.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on continue encore un petit peu cette malédiction qu'a touché Mikami, Kamiya, ces gens-là, dans leur façon de faire les jeux. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qu'on va essayer d'explorer par la suite. Mais de dire, bah voilà, ils n'arrivent pas à faire des jeux qui touchent du monde et qui arrivent à convaincre suffisamment de personnes pour taper des chiffres un peu plus gros, pour grossir en fait, et surtout peut-être pour prendre leur indépendance. Et c'est pour ça d'ailleurs que par la suite, ils vont rester toujours à faire des jeux de commande, quoi. Ils n'ont pas engrangé à cette truc. On va rentrer dans l'histoire de Vanquish
maintenant.
Alors
là, attention, et installez-vous. Alors là, je vais prendre ma plus belle voix ASMR parce qu'il faut bien qu'il y ait un truc...
De toute façon, il y a deux paragraphes.
Oui, ça va être très très long à lire. Il était une fois. Non, mais l'histoire de Vanquish, c'est le futur. Voilà, le turfu. Vous le savez, la société va mal, l'humanité va mal, les ressources naturelles deviennent de plus en plus rares. Donc, on va construire une station spatiale gigantesque en forme de cylindre, parce qu'après tout, autant y aller à fond. C'est les États-Unis qui font ça. En face, il y a le bloc de l'URSS, les Russes, et ils sont en armée rouge, c'est les méchants. Il y a un coup d'État en Russie et ils vont envahir la station. J'ai oublié son nom d'ailleurs, complètement. Ils envahissent la station et ils vont détourner une espèce de rayon micro-ondes qui servait au départ pour créer de l'énergie. Et ils vont tirer sur San Francisco. Ils vont complètement
sur la Terre, hein,
détruire,
là où il y a, là.
Voilà, ouais. Détruire la ville en mode YOLO. Et ensuite, ils vont menacer de détruire New York si on leur donne pas un avion et 15 millions de dollars.
Et 2 mars.
De là, évidemment, l'armée américaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie l'armée américaine. Et ils engagent également un type qui s'appelle Sam Gideon, qui bosse
pour la DARPA.
Voilà, ouais, c'est un peu le penchant asiatique de Gordon Freeman, c'est-à-dire que c'est un laborantin, mais c'est aussi le type qui a créé la super armure de la folie.
C'est un peu
la
folie. Rencontre entre Solid Snake et Gordon Freeman, donc on est vraiment sur pas du tout une caricature de héros de jeux vidéo, rassurez-vous.
Ouais, il est vraiment, c'est vraiment une énorme caricature, effectivement, et il a fabriqué, en fait, avec le DARPA, qui est une agence un peu gouvernementale, une espèce d'armure qui lui permet de contrôler le temps. Il y a un truc de réalité augmentée, il y a du bullet time et ça lui permet de venir aider, prêter main forte aux Marines qui vont envahir leur propre station.
Sachant qu'il y a quand même une mission, sauver l'otage.
Il faut sauver un otage, il faut sauver des trucs. Professeur Chen, exactement. De là, péripéties, des robots russes qui sont rouges, donc ça veut dire que c'est les méchants.
Ils sont communistes.
Et ils explosent quand on tire dessus. Voilà, c'est la règle. Va y avoir quand même des petits twists, va y avoir des trahisons. Il y a son super pote, là, Burns, le gros général. Colonel Marines, etc., qui en fait était un agent double, mais pas que. Et puis finalement, il se rend compte que, bref, péripéties, oui, toujours.
En fait, il obéit aux ordres et on se rend compte qu'en fait, les ordres.
La présidente des États-Unis a fomenté un complot. Avec les Russes, avec les Pouchis, comment tu dis
Pouchis. Les Pouchistes
Pouchistes, ouais, de mais parce Russie.
Que ça veut dire que les gens, elle aura une sorte de téléphone rouge.
Voilà.
Ou alors, écoutez,
ils s'ont envoyé 2-3 textos en mode l'économie, ça va pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'économie va pas bien? On fait la guerre.
Yes.
C'est comme ça.
Ça, c'est la relance. Moi, j'ai envie de dire aux Français, la relance.
Et du coup, elle a sacrifié San Francisco pour déclencher une guerre contre les Russes, avec, du coup, en allié les Pouchistes. Et pour faire porter le chapeau, voilà, tout ça. Ouais. Donc ils se mettent ensemble, ils font un petit accord, mais voilà, c'était sans compter
et
sur
à
Sam
la fin,
Gideon.
Voilà, Sam Gideon arrive et il sauve l'univers. Tout simplement, vraiment,
en
voilà.
Fait,
un moment,
il fait tout capoter.
Ouais, il fait n'importe
parce
quoi.
Parce qu'il bute tout le monde, en fait. Et
il
la présidente
monde, il jette
des
ses
États-Unis.
Clopes, et voilà, et la présidente des États-Unis décide de mettre fin à ses jours.
Voilà, dans une scène qui a bouleversé Maxime.
Ce drapeau américain taché par son sang, je veux dire, c'est beau.
Voilà. L'Amérique a du sang sur les mains.
Waouh, la symbolique. Non mais bon, Le scénar, c'est un film d'action de série B des années 80 et c'est complètement assumé. A priori, ça fait partie des refs et bon, quand on connaît le reste du travail de Mikami, c'est pas très choquant, on va dire.
Oui, c'est vrai que Resident Evil et compagnie, ça n'a jamais vraiment brillé par sa subtilité et les grands thèmes que ça brassait.
Parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes choses. Ouais. Il y a des agences gouvernementales, il y a des trucs qui se font en secret, il y a du complot, etc. Il y a des mecs badass et des nanas badass qui ont des gros guns et des gros flingues et qui tirent sur des gros trucs. Voilà, tout simplement.
C'est tout ce qu'on aime.
Quelques cinématiques stylées de bagarres avec exosquelettes et voilà, c'est à peu près tout. Et ça, en fait, ça n'a pas vraiment de prétention. On est d'accord. En fait, on n'a pas dit que c'est... On se dit pas que c'est mauvais, tu vois. On dit juste, on s'en fout.
C'est un prétexte. Hein,
ouais, mais c'est mauvais quand même. On peut le dire. On peut le dire que c'est mauvais.
Ça n'a pas la prétention d'être bon. Enfin, ah oui, oui, oui.
Mais ça reste quand même mauvais. Disons
que ça
n'apporte
rien au truc, tu vois. Ça a plus tendance à gêner ma progression dans le jeu parce que du coup, quand j'ai refait le jeu là, j'ai passé les cinématiques parce qu'au bout de 5 minutes, déjà, j'en avais marre en fait. Vraiment, c'est inintéressant au possible. Et je sais pas, je me dis que ça fait peut-être partie, encore une fois, du cahier des charges. Tu vois, il fallait faire des jeux un peu cinématiques. Ça fait partie de ses références aussi, hein, Mikami.
Pas vraiment. En tout cas, j'ai pas cette impression qu'ils ont essayé de raconter une histoire, de raconter un truc. Comme dit, tu vois, ça prend pas trop de place. Il y a un moment, un peu, je crois, début du chapitre 2, ça prend un peu trop de place. Tu vois, il y a peu de phases de jeu pour un peu trop de cinématiques. Mais globalement, je trouve que l'histoire reste quand même assez en retrait. Et c'est pour ça que... Je dirais pas que c'est mauvais dans le sens, ça nuit pas trop au jeu, ça laisse quand même la place au jeu. Mais après, effectivement, à chaque fois que tu vois un truc ou que ça parle, c'est pas bien, c'est pas intéressant.
C'est le moment où on regarde son téléphone. Oui, voilà,
en fait, je pense qu'on se permet de dire ça aussi parce que Camilla avait dit à propos de Bayonetta justement que le scénario pour lui c'était un prétexte et qu'il s'en foutait que ce qu'il voulait faire. Donc on imagine que c'est quelque chose qui transpire un peu dans la philosophie de Mikami, que lui aussi, enfin en tout cas quand on voit le jeu, c'est la meilleure chose qu'on puisse dire, c'est que ce n'était qu'un prétexte et que du coup, Osef 8000 comme c'est noté sur mon conducteur.
Oui, je dirais même Turbozef. Turbozef. 3000 revival.
C'est pas lourd. Pas claqué.
Mais voilà, comme dans le conducteur de l'émission, habituellement, on parle de l'histoire, là, on l'a mentionné, mais c'est à peu près tout ce qu'on va faire, parce que visuellement, le cœur du jeu, c'est son gameplay, c'est son style, son approche d'un style de jeu qui était devenu, en fait, extrêmement populaire à ce moment-là, qu'on appelle le cover shooter. C'est Gears of War. Vous imaginez qu'en gros, d'un coup, le level design, il y a plein de petits murets qui font toujours la même hauteur qui ont poussé comme ça dans la nuit et tout le monde peut se mettre accroupi et on tire et ensuite on recharge et ensuite on tire.
C'est ça. En général, on a une mécanique où on peut se coller ou se mettre à couvert, se jeter. Enfin, on est un peu aimanté.
Il y a ce bouton.
Beaucoup de murs qui ont beaucoup d'angles en fait, beaucoup de murs bien droits comme tu le disais qui font soit tu vas avoir un mur où, qui fait ta taille et tu joues avec le coin, tu vas faire des petites décales à côté, soit tu as un mur comme tu dis moitié d'homme et t'es accroupi et tu te lèves et t'es accroupi et tu te lèves et des ennemis qui eux aussi se mettent à couvert. Et en général, ne viennent pas trop déranger ta position.
C'est une sorte de guerre des tranchées remixée, hein, comme ça. Et donc, c'est vrai, c'est pas mal Gears of War qui a imposé son modèle-là avec cette espèce de petite course comme ça. Il y avait cette petite caméra et hop, on se collait au mur.
Caméra au niveau des genoux et tout, c'était quand même
classe. Ça marchait bien, ça marchait bien. Et en fait, après, tout le monde s'est engouffré dans cette façon de faire du shooter. Et il y a eu Uncharted qui a essayé de faire ça. Alors, le premier, c'était pas très, très réussi. Hein. C'était pas encore ça. Mais même GTA 4, c'était le gameplay
cover,
comme ça. Et Red Dead, c'était ça.
Mass Effect ça reprend ça aussi.
C'est aussi ça.
Et Hitman après, vraiment, il y a eu... ça. Enfin,
en fait, oui, après, en fait, il y a eu une vague. Et même vraiment, des licences qui n'étaient pas historiquement comme ça se sont réappropriées le truc pour faire du cover.
Je pensais à Deus Ex, le reboot, où la caméera change quand on est en cover, etc.
C'est ça. Dans un premier temps, on va plutôt. Parce qu'en fait, on va sûrement revenir sur l'après-Vanquish, mais là voilà, quand Vanquish sort, en gros, c'est à peu près voilà, les jeux, comme on a dit, Mass Effect, Gears of War, Uncharted, voilà, ça...
C'est un peu le haut de la vague quand même, hein. On commence à sentir que...
On est en plein dedans. Quoi.
On est en plein dedans. Il faut savoir aussi, il y a un petit truc qui est intéressant à noter, c'est que à cette époque, comme on passe beaucoup sur les consoles, le PC est vraiment dans le creux de la vague là pour le coup. Beaucoup de game designers ont réfléchi, comme on en avait parlé avec Halo, à une manière de rendre le gameplay à la manette plus adapté, puisque il n'y a pas la sensibilité, la vélocité d'une souris. Et le third person shooter et Gears of War, c'est un très bon truc parce que vu qu'on est quand même assez statique entre les phases de déplacement et les phases de shoot, ça colle bien en fait aussi à la manette. Donc ça a l'air de rien, mais le fait que le beaucoup de monde qui jouait aux jeux vidéo se soit déplacé sur console, ça a aussi facilité l'arrivée de ces types de jeux-là.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu n'as pas la même flexibilité dans la manière de viser, contrairement à une souris, en fait, dans Gears of War, ce qui se passait souvent, c'est que tu arrivais à viser sur la tête du mec, il se recachait, toi aussi tu te recachais, et en fait, il fallait juste ressortir pour lui allumer la tête dès qu'il ressortait. Donc, l'idée de viser, tu avais beaucoup de temps, en fait, pour viser, et en fait, c'était plus une guerre de position et de moments, genre, ok, je sors et je tire maintenant, et j'arrête de tirer. Et du coup, ça changeait complètement le dynamisme, et comme tu le dis, c'est vraiment designé pour de la console, parce qu'il y a cette possibilité, le stick droit, bon, bah, ça vise moins bien qu'une souris.
Et aussi, du coup, de la troisième personne, puisque tu peux voir l'ennemi alors que tu es à couvert, parce que typiquement, du cover shooter, ça marche pas vraiment en FPS, puisque ce que tu peux faire, donc tu peux voir les timings où il se lève, se baisse, se lève, se baisse, tout en étant safe et à couvert quand t'es à la troisième personne, et tu peux préviser où il sera pendant, et toi te lever sans que ça change ta visée, alors que dans les FPS, bah, dès que tu bouges, dès que tu te déplaces, ça change aussi ta visée.
Donc c'est vrai que c'est vraiment un genre qui a été formaté comme ça pour la console, pensé pour la console, et donc bah, grosse domination, et en plus bah, voilà, ça collait à tout. En fait, c'est vraiment la mécanique, pour moi, le cover shooter, c'est le truc du début de la HD.
Ouais,
quoi,
parce qu'en plus, ça a été repris derrière, enfin, comme on le disait, avec The Last of Us, alors on est quelques années plus tard, mais voilà, ça a pu être adapté à plein d'autres styles de jeu, cette idée de on se cache, cette caméra, ça permet en fait de créer une petite temporisation, on va pouvoir observer son entourage, on va pouvoir décider de là où on va aller après. Enfin bref, en termes de GD, en termes de game design et de level design, c'est très utile, et ça permet vraiment de maîtriser le rythme du jeu, de le poser, contrairement à des... Parce que voilà, c'est contrairement à des fast FPS, tu vois, on n'est pas dans un Counter, on n'est pas dans un Quake où on sautait partout comme des lapins. Là, vraiment, il y a un truc plus posé. Et par contre, Vanquish va arriver avec un côté assez twist, puisque du coup, l'idée, c'est de s'inspirer de ça. Hein, il le cite dans le documentaire d'Archipel, ses inspirations, c'est Gears of War et Call of Duty Modern Warfare. Mais ils arrivent avec un twist, c'est le fait qu'on puisse glisser pour se déplacer. Puisque du coup, dans Gears of War, on le disait, il y a une... Il y a des phases de jeu où on court comme ça, d'une.
Mais c'est lourdeau quand même, parce que les Gears, ils sont bien équipés, Marcus Fenix, voilà, il avance doucement. Alors que là, on est vraiment sur une vitesse de croisière qui est beaucoup plus élevée et qui nous permettre de nous déplacer comme ça, de speeder à travers les arènes, moyennant une jauge de
stamina, de surcharge. Oui, en fait, quand elle est vide.
L'endurance.
Oui, c'est de l'endurance.
C'est Dark Souls.
Ah bah, en plus, on fait des roulades.
Oui,
c'est. Et donc une fois qu'on a vidé cette jauge, on va avoir une zone de surcharge pendant quelques secondes.
On va être beaucoup plus lent, les dégâts qu'on prend peut-être sont plus forts ou un truc comme ça. Enfin, bref.
Non, mais c'est que tu t'en prends des dégâts, alors qu'en fait tu te prends pas de dégâts quand tu spams la roulade et que tu glisses. Je crois que c'est quasiment impossible que tu te fasses toucher. Alors que quand t'es en surcharge, tu ne peux plus glisser et tes roulades sont plus lentes, donc t'as beaucoup plus de chances de te faire toucher.
Et donc, ça déjà, ça permet de se déplacer rapidement d'une couverture à une autre. Et l'autre petit truc qui va vraiment apporter sa spécificité à Vanquish, c'est le bullet time, là, ce qu'ils appellent le truc de réalité augmentée, où en fait, quand on est en glissade, quand on saute, quand on sort d'une couverture, qu'on passe par-dessus, dès qu'on réalise pas mal d'actions,
on
appuie sur
un
bouton,
stylé, le moment de visée,
le mode visée, pour déclencher l'utilisation de cette barre d'endurance. Et dans ce cas-là, on a du bullet time, on peut aligner les têtes, on peut tirer, on peut viser. Et si on joue avec ça, on joue bien notre jauge, on va pouvoir enchaîner ces petites séquences de ralenti.
Oui, parce que le bullet time, lui aussi, consomme la même jauge.
Ouais.
Et je reviens très vite fait sur la glissade. Il y a quand même un truc qu'il faut comprendre, c'est que la glissade, elle n'est pas faite pour aller non plus au cœur de la mêlée, puisque comme on l'a dit, le fait de glisser, ça vide notre recharge. Donc on a vraiment cette optimisation à faire entre déplacement et glissade, et viser, et tirer pour ne pas se retrouver avec une jauge à zéro. Et du coup, si on fonce sur les ennemis, très vite, on va se retrouver avec une jauge à zéro en plein milieu de la mêlée. Et c'est pas ce que tu veux.
Oui, parce qu'on ne pourra pas repartir, donc ça sera trop dangereux.
Donc en fait, le jeu, ce qu'il veut que tu fasses, en gros, c'est plutôt prendre les ennemis à revers, rester quand même pas trop loin d'une couverture au cas où il se passe des trucs, ou attendre pour pouvoir patienter un peu pendant que la zone se recharge, ou sinon, en vrai, une façon de jouer, c'est juste tu spam roulade pendant que ta jauge se recharge. Et d'ailleurs, un des premiers trucs, vraiment de la première mission, le premier truc que tu fais, c'est prendre des ennemis à revers. En fait, il y a un seul chemin possible, c'est genre vers la gauche ou quoi.
Ouais.
Tu prends les ennemis à revers, et c'est comme ça que le jeu, il veut que tu joues. Faut plutôt réfléchir de la glissade autour des ennemis qu'au milieu.
Bah, c'est vraiment les flancs, hein. C'est de créer un groupe d'ennemis, de les réunir venir à un endroit et dire ok, maintenant je les contourne, et en fait c'est voilà, de créer des flancs hein, tout simplement, et de flanquer comme ça continuellement.
Et comme on glisse vite, par contre ce qui peut être rigolo, c'est qu'on peut passer au travers d'un groupe d'ennemis, se remettre à couvert et tu vois passer comme une tangente dans un cercle, tu vois.
Oh là là, ça commence à faire des mathématiques là.
Je sais plus comment on appelle ça, mais un trait
bisectrice comme ça là.
Je sais pas quoi, de Pythagore.
Et il y a aussi un truc intéressant, c'est que le corps à corps aussi consomme encore cette jauge. Donc parce que là aussi tu peux avoir des espèces de super coups au corps à corps. En fait tout consomme cette jauge d'endurance hein, tout simplement, qui va alimenter l'armure. Et une fois que tu l'as plus, si t'as trop tapé dedans, bah tu te retrouves vraiment à la merci des ennemis. C'est lent, c'est chiant, tu te rends plein à la tronche.
Très punitif hein. Vraiment dès qu'on se retrouve en surchauffe pour x ou y raison, parce que bah en fait on peut se retrouver en surchauffe quand on se prend trop de dégâts, le jeu va obligatoirement passer en bullet time pour nous laisser en fait quelques secondes histoire de se remettre à couvert. C'est un peu l'équivalent des jeux, vous savez, où il y a l'écran qui devient rouge et il vous laisse quelques secondes pour vous remettre à couvert, on fait et voilà, c'est, on a récupéré tous ses points de vie.
D'ailleurs le jeu active automatiquement le bullet time si on se prend un certain nombre de dégâts. Alors je pense c'est peut-être parce que le jeu était trop dur, que les joueurs avaient du mal un petit peu à bien gérer leur vie, ou voulaient pas trop claquer du bullet time quand ils se faisaient toucher. Mais c'est quand même intéressant de noter, voilà, que dès qu'on se prend quelques balles, hop, le jeu direct il nous,
c'est quand
il nous fait claquer.
Ouais, t'arrives au bout de ta jauge de vie, en fait tu te donnes une espèce de seconde chance, ça te permet d'aligner un peu
des chances. Mais si t'étais déjà en surchauffe, en fait il ne te met pas du bullet time, tu vois, parce que t'as plus de jauge, donc il dit quand même hey, t'as pas consommé ta jauge, je vais le faire pour toi. Enfin il y a quand même ce côté, il t'aide, ça c'est quand même une mécanique qui t'aide beaucoup. Et on disait que donc la surchauffe elle est punitive, ça mène quand même à certains moments, c'est faut quand même le noter, parfois t'es en surcharge en fait, donc t'attends, ça dure je dirais entre 5 et 10 secondes à peu près la surcharge, qui est relativement long, et parfois tu te prends des coups à ce moment là pendant que t'es à peu près aux 3 quarts de la jauge, ce qui fait qu'ensuite hop tu n'es plus en surcharge, mais le jeu, comme tu t'es pris des coups, il va activer le bullet time, du coup bah t'attends un petit peu que la jauge se décharge ou t'en profites pour
tirer.
Ouais,
t'es dans un petit cercle vicieux,
mais
un moment,
comme en fait ça t'est arrivé alors que t'étais à couvert, t'es pas forcément dans une bonne position, mais bon t'en profites pour tuer peut-être 1, 2, 3 ennemis, et après comme il te la consomme jusqu'au bout, t'es encore en surcharge. Donc parfois il y a des moments pendant 30 secondes, t'es un peu à couvert, un peu Myrien, c'est très punitif comme on dit.
C'est un jeu qui est vraiment dans la philosophie Platinum. Alors évidemment on peut le dire avec le recul, puisque au départ, au moment où sort le jeu, elle est encore en train de se définir cette philosophie là. Mais l'idée c'est vraiment de créer un système de jeu et de construire autour de ce système et de créer de la profondeur. Bayonetta, le système c'était vraiment le Witch Time qui fonctionnait donc sur l'idée de hop, tu fais une esquive, si tu fais une esquive au dernier moment, le temps va se ralentir et tu vas pouvoir encore mettre beaucoup plus de coups.
Ça a été repris dans un tas de jeux depuis.
C'est vrai. Et là, dans Vanquish, c'est vraiment ce système, donc ce couple entre la glissade et aussi l'AR, donc qui permet de ralentir le temps. Ils aiment bien ralentir le temps chez Platinum. Et l'idée, ça va être de créer de la profondeur. Donc, comment on encourage à faire de la profondeur? Déjà, il y a un système de scoring. Donc, en fait, le jeu nous dit qu'il y a moyen de jouer un peu à l'arcade. C'est-à-dire que tu peux être bien meilleur au jeu que tu ne l'es au départ. Donc, il y a une idée de maîtrise.
De performance, en fait.
Exactement.
Hein,
ouais. Exactement. Et puis, une certaine profondeur dans les mécaniques, puisque le jeu avec ses glissades et ces trucs là en fait il y a plein de petites mécaniques un peu cachées qui vont te permettre de jouer de manière un peu plus stylée, de faire plus de dégâts. Alors moi je pense au fait par exemple de pouvoir rebondir contre les murs, donc t'arrives en glissade et tu rebondis contre les murs en mettant un coup de mêlée, et en fait ton perso il s'envole, et là pendant le moment où il s'envole tu peux faire un ralenti et t'es dans les airs, c'est trop stylé, tu peux allumer des gus. Il y a certains mouvements de corps à corps qui peuvent être un peu exploité pour éviter de vider sa recharge, mais qui vont quand même faire des
coups. Il y a 6 ou 7 armes en tout, je crois. Il y en a peut-être une dizaine, qui a une espèce de DLC qui était sortie, mais en gros chaque arme a son attaque de mêlée spécifique, et donc en gros quand on la déclenche sur un ennemi, ça va vider d'un coup la zone de la jauge d'endurance, mais on peut en fait la faire en étant à une certaine distance, etc., et exploiter un petit peu le truc pour justement
En fait il y en a que tu peux faire sur place, ça ne consomme pas de jauge, ça ne fait pas surcharger si on tape dans le vide ou contre un mur. Et donc quand on tape contre un mur pendant qu'on est en glissade, en fait il va donner un coup de pied contre le mur et rebondir haut, et déjà pendant qu'on est haut on peut activer du coup le bullet time, ça nous donne une petite position. Et comme tu l'as dit, il y a des coups de mêlée différents pour chacun, mais il y en a un typiquement où il donne une espèce de coup de pied vertical et il saute à 1 ou 2 mètres de hauteur. Tu peux encore activer le bullet time pendant que tu es dans les airs.
C'est le Sonic Boom de Guile.
C'est exactement ça.
En vrai il est trop bien ce coup, le coup de pied sur place, et tu peux switcher d'arme. Moi ce que je faisais parfois c'était que
donc j'avais souvent le snipe avec moi et je voyais pas très bien l'ennemi, enfin il me manquait, tu vois, un petit peu. Bah, je prenais l'arme, donc une mitrailleuse, je faisais hop le coup de pied vertical dans les airs, là je sortais le snipe et je faisais le bullet time en même temps. Du coup, j'étais à 1 ou 2 mètres de hauteur avec un snipe et je pouvais viser, tu vois. Donc ça donne des moments quand même très stylés.
Et j'y pense en fait, mais c'est super malin parce que ça crée vraiment de la verticalité. Parce que je pense à Gears of War. Gears of War, c'est vraiment un jeu qui se déroule sur un plan. Il y avait très peu de moments où tu pouvais monter et justement prendre de la hauteur derrière les couvertures. Alors que là, justement, comme tu peux monter de 2 petits mètres en faisant un saut, eh ben, tu peux créer une, vraiment, bah, littéralement une troisième dimension qui te permet, de, encore une fois, de créer un axe Pythagore. Hein, tu es au-dessus des couvertures et tu peux tirer. Donc c'est vraiment intéressant quand même parce que ça crée un autre enjeu autour des couvertures.
Et tu as aussi le move quand tu es. Parce qu'on le rappelle, c'est quand même en surface un cover shooter. Tu as un bouton pour te mettre à couvert, pour le côté aimant, comme on le disait. Mais tu peux aussi sauter par-dessus la barrière et activer le bullet time au moment
pendant
du saut.
Le
et ça,
saut,
ça te donne aussi une vision au-dessus de la couverture des ennemis.
Oui,
donc,
et
vraiment
si
ce côté agressif.
Ça arrive, il y a des moments assez souvent où quand on est vraiment très proche des ennemis, on est chacun d'un côté de la cover. Ouais. Et du coup, on saute et en ralentissant, on vise vers le sol et en fait, on arrose le type pour se retrouver derrière. Donc, y a des... En fait, et là, ce qu'on a commencé à expliquer, c'est que c'est vraiment un game design et en tout cas ce qu'on appelle le game feel, donc vraiment l'ensemble des sensations qui sont procurées quand on joue et qu'on appuie sur les boutons, qui sont incroyables. Vraiment, c'est du plaisir. Hein. C'est vraiment, moi, je définis ça comme, tu sais, c'est une petite barre de Twix, tu vois, mais c'est de l'adrénaline. Tu prends ça, c'est du plaisir et c'est trop bien, quoi.
Et t'es vraiment libre aussi dans tes approches. Comme dit, moi, il y a des moments où je décidais de, hop, je m'équipe la mitrailleuse, je fais un coup de pied vertical, je sors le snipe, je mets le bullet time, hop, je snipe un mec qui était un peu en descente. Bon, ça, c'est une décision que tu prends en instant T, c'était pas la seule. J'aurais peut-être pu glisser, taper sur un mur, faire la même chose, ou juste lui foncer dessus, prendre une autre position. Et donc, il y a vraiment plein d'approches différentes pour.
Ouais, et puis il y a des petites d'autres mécaniques. Tu vois, par exemple, quand tu jettes une grenade et que tu actives la R, en fait, si tu vises exactement l'endroit, tu peux tirer sur la grenade pour la faire exploser. Et donc là, tu peux créer vraiment des situations où c'est toi qui choisis à quel moment elle va exploser. Ouais. C'est très satisfaisant. Tu vas pouvoir jeter une clope quand tu es à couvert pour attirer pendant quelques secondes le feu de l'ennemi, partir de l'autre côté. Donc il y a des petits moments comme ça.
Oui, juste pour revenir sur le game feel, ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les animations qu'il y a
oui,
sur
exactement.
Ça.
C'est ce que j'allais
ça
dire,
qui
ouais.
donne vraiment du plaisir. C'est sa manière, là, cette posture qu'il a de glisser par terre. En fait, selon tous les angles de caméra, il est hyper réactif. C'est-à-dire qu'il a vraiment son torse qui pivote comme ça sur lui-même. Et il y a un move quand il glisse vers toi, donc quand il revient vers la caméra, mais que tu vises de l'autre côté, il est complètement tordu sur lui-même. Je me tords moi-même pour parler au micro, hein, pour bien le montrer, dans un exercice extrêmement radiophonique. Et enfin voilà, elle est trop stylée cette pose. T'es en train de glisser, tu tires derrière.
Il a vraiment les genoux par terre, il glisse vers l'avant et il fait un peu un pont. Enfin, c'est-à-dire, il se penche en arrière pour viser avec son gros fusil derrière sa tête.
On parlait de Tarantino, tu vois, mais ça pourrait être, un truc qu'on verrait dans un film comme ça, clairement. Et en plus, la gestion de la caméra est extrêmement maligne parce que par exemple, quand vous reculez et que vous revenez donc vers l'écran, enfin, que en gros vous faites venir votre personnage vers vous, la caméra recule et prend un énorme champ pour vous donner justement une vision d'ensemble de tout ce qui se passe. Et après, elle se re-rapproche quand vous repartez en glissade. Et elle est très réactive, elle bouge beaucoup. Il y a plein de moves qui sont super cool. Enfin, tu sais, on fait une petite roulade, tu poses un genou au sol et là, à ce moment-là, tu actives la R et tu arroses tout le monde. Un autre truc qui est très fun et qui est très satisfaisant, c'est qu'en fait, on n'a qu'une seule arme qui se modifie. Ça, c'est le système Blade, ils appellent ça. Mais en gros, l'arme va se moduler, vous voyez, un petit peu façon Transformer, et elle va changer de forme instantanément. Ça se fait très rapidement, c'est ultra satisfaisant et c'est super joli.
Et en plus, il y a ces animations, mais on l'avait évoqué dans l'épisode Heaven, il y a quand même cette philosophie japonaise où c'est très nerveux, tu peux cancel plein d'animations. C'est-à-dire que le game feel, comme tu le disais, les sensations en manette, l'action prend la priorité sur l'animation. Et donc tu peux avoir une glissade, mais hop, d'un côté tu fais une roulade, ce qui n'est pas très cohérent d'un point de vue vraiment animation. Ça saute probablement des
petites
étapes,
crée un petit
le mouvement des
ça.
Jambes va pas vraiment suivre un truc cohérent, mais en termes de sensation, tu peux interrompre plein de trucs en faisant une roulade, en changeant d'arme, en machin, parce que voilà, c'est toi qui as le contrôle avec ta manette.
Et ça donne quelque chose de très dynamique à l'écran. Moi, ça fait penser aux jeux de combat, hein, Capcom, encore une fois, Street Fighter. Le fait, les persos qu'ils arrivent à sortir des coups comme ça, que tu peux enchaîner à certaines frames, en fait, ça crée quelque chose de très satisfaisant qui est pas logique, encore une fois, d'un côté d'animation. On n'est pas sur de l'animation extrêmement bien liée et tout, mais par contre, ça donne de l'impact à ce qui se passe à l'écran avec des petites secousses de caméra. Et ça, le jeu, là, on voit encore une fois que c'est des gens qui ont une expérience. Hein. En 2010, Shinji Mikami, ça fait déjà 20 ans qu'il est dans le game. Et tu te dis, voilà, c'est des gens, ils savent faire ça. Et c'est ça, en fait, la philosophie Platinum. C'est ça, c'est à la fois cette idée de créer un système qui va permettre de la profondeur, mais aussi une manière de, eh bien, de sublimer l'action via des mouvements de caméra, via l'animation. Et ça crée quelque chose de très nerveux.
Détails. Par exemple, l'armure là, de Sam, il y a tout un tas d'espèces de petits chevrons qui sont sur ses cuisses, sur ses épaules, vont partir. Il va y avoir de la fumée qui va monter quand on est en surcharge. Enfin, elles vont bouger quand on est en l'air, elles vont se déplacer quand il fait un énorme saut. Il y a tout ça qui se passe à l'écran et ça rend l'expérience extrêmement satisfaisante. C'est sur ça qu'il se démarque. Et vraiment, pour revenir sur cette histoire d'animation, c'est vraiment une histoire de philosophie de game design, parce que c'est vrai qu'en général, je vais prendre l'exemple extrême de Red Dead 2, tu vois, où on est sur des animations extrêmement liées, qui se veulent réalistes, c'est-à-dire que les mouvements sont bien reliés les uns aux autres, il n'y a pas de coupure, que là, vraiment, on est effectivement dans une philosophie où c'est le plaisir de jeu qui est le plaisir visuel, esthétique, comme on en avait parlé à l'époque de Devil May Cry, qui prime, où en gros, on peut avoir ce qu'on appelle des pauses, où en fait, il va y avoir des grosses coupures, l'animation elle va être complètement coupée, il va y avoir des tonnes de frames qui vont sauter, mais c'est pas grave parce que le fait de se retrouver en un clin d'œil dans une posture ou dans une autre, ça donne un côté très nerveux, très dynamique, et ça c'est ça qui est plaisant, et ça c'est vraiment un truc qu'on reconnaît dans un tas de jeux quoi.
Et en plus ça fait partie de la maîtrise du jeu, c'est-à-dire que justement annuler ces animations ça va permettre de gagner du temps sur de la recharge, sur justement de la surchauffe, hein. Tu vois, quand tu regardes des gens qui savent vraiment jouer à Vanquish, tu les vois, ils sautent, ils font des roulades, ils glissent, ils font une petite roulade, ils glissent, ils font une petite roulade, et ce qui fait qu'ils consomment très 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 peu de leur jauge, mais ils vont hyper vite, parce que justement, ils jouent sur ce cancel d'animation, sur le fait que ça se déplace, que ça consomme pas trop de trucs, enfin bref, il y a toute une profondeur comme ça qui se découvre au fur et à mesure du jeu, et qui s'expérimente, et qui est fait en fait pour être expérimenté, en faisant plusieurs runs tout simplement, c'est un jeu qui se fait une fois, mais qui doit se faire une deuxième fois, une troisième fois, et ça encore une fois, c'est la philosophie Platinum, Bayonetta c'était exactement la même chose, c'est comme ça en fait qu'ils envisagent le fait de jouer à leur jeu. C'est si t'as joué qu'une fois, tu n'as pas fait le vrai jeu, tu n'as pas
le vrai jeu commence après.
Exactement, c'est vraiment cette idée là.
Bon, et du coup, on est tous d'accord pour dire que Vanquish c'est super,
c'est vrai,
mais il a pas marché. Et nous, en fait, on trouve ça, c'est pas logique, mais ça s'explique en fait de différentes manières. C'est que globalement, il transmet très mal ses intentions. Déjà pour commencer, on avait parlé du score, la philosophie Platinum et tout, comme tu le disais, les scores peuvent te donner envie de mieux jouer, d'être mieux noté, sauf qu'en fait il n'y a pas de note, il y a juste du score sans contexte. T'as 100 000 points, 20 000 points, j'en sais rien. Il y a éventuellement un petit indice, c'est quand même intéressant de le noter, il met ton pourcentage de couverture, le temps que t'as passé à couvert, sauf que tu n'as pas vraiment de score lié à ça. Typiquement, les Bayonetta ou les Metal Gear Rising aussi, tu as une note à la fin. Est-ce que tu as eu A, B, C, S, triple S, super sexy
or,
style,
platine.
Dans Bayonetta, tu as des médailles. Et du coup, ça te permet de débloquer des trucs particuliers.
Et là, il n'y a rien. En fait, à la fin, tu as juste un score. Et en fait, tu ne sais pas si tu as bien joué ou pas. Tu ne comprends pas. Le jeu te dit pas, tu as D, c'est pas terrible. Et tu n'as pas, cette fois, je sens que j'ai vraiment bien joué. J'ai B, ok, donc j'ai mieux fait. Mais je peux encore mieux faire parce que je sais qu'il y a S ou double S ou quoi. Donc, finalement, ce scoring, sans note, ça veut rien dire, en fait.
C'est ça, quand c'est juste des chiffres absolus. Et l'idée, c'est pas de dire oui ou non, on est des petits élèves, on veut avoir le gamer, tu sais, genre en mode je veux le bon score. Mais en fait, vraiment, il faut bien comprendre que sans contextualisation, sans en fait réponse, tout simplement feedback du jeu qui te disent ouais, c'est bien comme ça qu'il faut que tu joues à ce jeu, en fait, on sait pas. Et on sait pas à quel point c'est stylé. C'est-à-dire que les trucs qu'on fait, nous, on se dit oui, c'est stylé, j'ai sauté par-dessus le mur, j'ai fait mes petits pipiou. Mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ce que je fais?
Est-ce que je peux aller plus loin?
Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce qu'il faut que je le fasse plus vite? Est-ce qu'il faut que moins que je me prenne de dégâts? C'est quoi vraiment? Comment j'arrive à me dire que je joue vraiment bien à Vanquish? Et en fait, moi, ça, c'est vraiment un truc. Quand j'ai joué à Devil May Cry, 5, on a fait un épisode dessus. En fait, la note, moi, j'ai tout de suite compris. Je me dis, c'est ça, en fait. Elle me dit, ok, pour monter la note, qu'est-ce que je dois faire? En jouant, je me suis rendu compte, je dois alterner les moves. Je dois essayer de jouer de manière stylée. C'est ça qui est priorisé. Dans Bayonetta, c'est plutôt les dégâts que tu vas faire et le temps que tu vas mettre pour les faire. C'est faut essayer de tuer le plus rapidement possible. Et donc, ça veut dire faire des combos pour faire plus de dégâts, etc.
Ouais, bien enchaîner les witch time, etc., etc.
Exactement. Donc c'est comme ça que le jeu, il t'apprend à jouer en disant ouais, c'est comme ça que je veux que tu joues. Et là, dans Vanquish,
En fait, dans un scoring qui est vraiment arcade, mais vraiment dans le sens historique du terme. C'est-à-dire que l'arcade, à une époque où on cherchait simplement à faire mettre des pièces dans des machines, on faisait un score pour que les gens se comparent entre eux et qu'il y ait une espèce de compétition pour que bah, quand vous prenez la machine derrière l'autre personne, vous essayez de la battre, quoi, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, on est plutôt dans un scoring dans les jeux vidéo un peu plus modernes où effectivement, c'est une évaluation. En fait, c'est une manière de transmettre aux gens une information sur qu'est-ce que le jeu a comme potentiel. Ouais. Et là, vraiment, et malheureusement, oui, le potentiel attendu et ce que vous pouvez faire. Mais là, c'est pas le cas. Et nous, on s'est vraiment rapidement, quand on en a discuté entre nous, on s'est dit, mais c'est tellement dommage parce que justement, cette idée de jouer de manière stylée, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ouais. Alors que justement, ce truc de score aurait pu, enfin de note, aurait pu être un bon indicateur.
Ouais, c'est ça. Ça permet de nous apprendre à comment regarder le jeu, comment dire, ok, qu'est-ce qui est attendu de moi, donc comment je vais essayer de jouer. Autre souci quand même qu'on a noté, c'est le level design et les boss, les quelques boss qu'il y a, qui arrivent assez peu finalement à nous pousser à exploiter ce truc. Alors oui, bien sûr, on peut glisser, on peut au début, hein, tu l'as bien dit Maxime, tout début du jeu, il y a cette introduction qui nous dit, bah voilà, va falloir prendre art vers les ennemis, donc là on nous l'apprend, mais finalement voilà, c'est assez compliqué, il n'y a pas vraiment beaucoup d'incentive à le faire, et le jeu se renouvelle assez peu pour nous forcer à le faire.
Et surtout, le boss, en fait, prenez un exemple dans votre tête d'un boss Zelda, par exemple, typiquement, parce que ça c'est vraiment le cas d'école, où en fait c'est un boss qui va vous forcer à utiliser l'objet que vous avez récupéré quelques minutes plus tôt, et c'est super évident. Là, dans Vanquish, on pourrait imaginer que les boss nous poussent naturellement à utiliser la glissade, à utiliser l'air, etc. Et en fait non, c'est des gros sacs à PV avec différents endroits sur lesquels il faut tirer. À la fin, il y a un QTE et c'est tout. Il n'y a pas de mise en jeu.
Exactement.
Qui exploite les mécaniques de Vanquish.
C'est ça, il y a à la rigueur donc quelques points faibles qui peuvent être derrière ou quoi, donc on nous pousse quand même à glisser dans le dos, mais en fait du coup par rapport à un autre jeu où tu vas juste courir ou changer de position, on n'a pas l'impression qu'ils se sont dit bon, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter la glisse de la meilleure manière possible avec des patterns différents. Tu vois, tu pourrais imaginer des patterns qui te forcent à glisser, ou un level design qui te force à prendre certains couloirs, certains trucs,
ou même de lancer la grenade, tu vois, de lancer la grenade et la faire péter à un bon moment. Ils auraient pu mettre un scénario où t'arrives pas à le battre, et la meuf qui te dise oh, si tu lançais la grenade et que tu arrivais à le tirer dessus, peut-être que ça le permettrait de casser la jambe, et tu te dis ok, donc maintenant faut que j'utilise cette mécanique, parce qu'on en a parlé de cette mécanique.
Ouais.
Mais le jeu ne te l'apprend pas, le jeu ne te dit pas en fait la grenade, t'as le temps, si tu penses à te mettre en AR, de tirer dessus, de la faire exploser.
Un petit message pendant le tuto, t'as un tout petit pop-up qui te le dit, ou t'as des petits messages peut-être pendant les temps de chargement, mais c'est pas suffisant. Et de la même manière, par exemple, quand on est en AR, quand on est en bullet time, on peut tirer sur des missiles, quand les robots ils se mettent à nous envoyer des trucs façon Gundam ou Macross, où on a vraiment des vagues de missiles façon japonais là, qui nous envoient dans la tronche, on peut tirer dessus pour les détruire et donc pour les faire exploser et pour se limiter, mais c'est pas des situations qu'on retrouve si souvent que ça, parce que bah, les ennemis de base par exemple nous envoient pas des trucs dans la tête qui nous forceraient par exemple à les utiliser. Donc il n'y a pas cette espèce de, vous savez, d'escalier comme on a en fait différents paliers en game design. En général, on nous apprend un truc, ensuite on nous apprend l'étape d'après et ainsi de suite, on nous met face à des situations avec une mise en jeu qui va évoluer au fur et à mesure.
Oui, une barrière qui dit « si tu sais pas faire ça, tu passes pas
». Exactement. Il pourrait avoir un point faible qui tourne un peu sur lui-même, qui te force vraiment à glisser,
à utiliser bullet time,
time pendant que tu glisses. Il pourrait avoir des patterns genre où il balaye vraiment un peu à la Dark Souls, une espèce, tu sais, imagine une énorme patte en fait, où tu peux pas sauter par-dessus ou quoi, il tourne à trois quarts sur lui-même, donc t'es obligé de glisser pour esquiver le truc, ou un truc un peu, je pense, ça me fait penser à Fury, où parfois face au boss t'as une espèce de camembert tout autour de toi, et t'as juste une part dans laquelle tu peux aller te réfugier en gros, et là il faudrait glisser pour aller là-bas. Enfin, les boss n'exploitent quasiment pas la glisse en fait, et ouais, c'est super dommage.
Un autre truc qui est pas aussi important mais qui peut être un petit peu frustrant, c'est qu'en fait pour une personne qui va découvrir le jeu, il y a une logique dans l'évolution de ces armes, parce qu'en gros donc on a un système de 4 armes avec les grenades etc. qu'on va pouvoir utiliser. C'est globalement l'interface de Gears of War, hein, ça la reprend quasiment trait pour trait. Mais quand on a une arme qui a ses munitions à fond et qu'on ramasse la même arme au sol, on va l'améliorer. On va augmenter les dégâts, on va augmenter la quantité de munitions qu'on peut porter, la quantité qu'il y a dans un magazine. Donc il y a vraiment plein de choses qui vont être améliorées, mais du coup c'est un petit peu contre-intuitif. C'est-à-dire que souvent quand on a une arme qu'on aime bien, c'est une arme qu'on a envie d'utiliser, c'est pas une arme qu'on a envie de laisser de côté avec les munitions à fond. Donc moi je sais que par exemple c'est un truc qui m'a un peu frustré, et j'avais du mal à me dire j'utilise cette arme que j'aime bien, je vais plutôt la garder pour plus tard. Et en fait c'est un peu dommage, tu vois, il y a un petit côté Zelda Breath of the Wild avec les armes qui se cassent, ça tu sais pas trop s'il faut les utiliser ou pas, quoi.
Et puis le système de grade n'est pas super clair. Dans lui, t'as des barres qui deviennent des étoiles. Enfin, les armes ont des grades, en fait, genre caporal.
Oui, c'est des insignes, en fait, militaires, mais c'est pas très parlant.
Enfin, aujourd'hui, enfin, tu sais, t'es là, t'es, mais je sais pas, moi, je les connais pas. Mettez-moi niveau 1, niveau 2, niveau 3.
Mettez-nous des couleurs.
Oui, ou
légendaire,
voilà,
épique.
Exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ferait plus.
On
ça,
ferait plus des couleurs. Ouais.
Et avec le recul, tu peux dire, bon, finalement, c'est plutôt large, parce qu'en plus, quand tu meurs, tu perds des niveaux d'upgrade de tes armes, et il y en a beaucoup, et machin. Et tu chopes des upgrades direct, t'as des gros trucs verts qui t'upgradent ton arme directement sans que t'aies besoin d'en avoir une pleine et que tu prennes machin. Mais quand tu sais pas, effectivement, quand tu commences le jeu ou quoi, bon, t'es un peu, tu sais pas forcément comment ça fonctionne, par ta peur parfois d'utiliser les armes de telle, les balles de telle arme, parce que tu dis peut-être que je vais l'upgrader. Bon, en gros, c'est faut le jarter, le système.
Tu vois, est-ce que je vais trouver cette arme là, est-ce que je vais la trouver plus tard, parce qu'il y a certaines armes un peu plus rares. Le sniper, on n'en trouve pas des balles à chaque fois, en général, c'est dans des cas très précis. Donc, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, et tous ces petits trucs mis bout à bout qui sont un peu crispants et qu'on a identifié quand on en a reparlé entre nous, en fait c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est un jeu en cover shooter qu'on peut jouer en cover shooter, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait y jouer.
Bah, c'est ça en fait le plus, un petit peu, c'est un peu l'aveu d'échec du jeu tout simplement, c'est que c'est possible de jouer comme un Gears of War, c'est possible de jouer à Vanquish comme ça, c'est-à-dire qu'on peut se servir de la glisse juste comme de la course de Gears of War, c'est-à-dire qu'on va pas du tout flanquer les ennemis, alors on va devoir le faire quand même de temps en temps, mais on peut rester complètement derrière notre couverture, ne très peu utiliser le j'allais dire le witch time, mais le bullet time.
Ouais.
Et on peut jouer comme ça, quoi. C'est possible.
Faut quand même noter que, en tout cas, j'ai dû faire en normal la première fois, là je l'ai refait en difficile. Bon, quand même, les moments, si t'es pas en bullet time et que t'es à couvert et que tu vises, tu vas prendre des balles.
Mais
ce que tu peux faire, alors déjà, peut-être qu'effectivement tu peux le faire en facile, normal, c'est-à-dire juste te montrer un peu, viser les ennemis, dès que tu prends une ou deux balles, hop, tu te caches. Mais c'est intéressant de noter que le jeu ne te permet pas d'activer le bullet time en étant à couvert. Ouais. Il faut quand même au moins faire une roulade, mais ce que tu peux faire, c'est t'es à couvert, tu fais une roulade sur le côté, t'actives le bullet time, hop,
tu reviens
tout. Limite, même si tu joues mal, tu laisses complètement le truc se vider, t'es en surcharge, hop, tu roules, tu te remets à couvert et t'attends. Et voilà, t'attends et tu roules sur le côté et t'attends, et en fait, ça passe. Et pareil pour les boss, tu vois, il y a des moments, c'est pas intéressant forcément de te mettre à côté d'eux, de glisser derrière eux ou quoi, à moins qu'il y ait leur point faible. Juste, tu peux te mettre juste à couvert, encore une fois, hop, t'actives le bullet time quand t'es à côté, tu vises le point faible, hop, tu reviens. Et voilà, parce que comme on l'a dit, les boss n'exploitent pas de toute façon, ils vont pas te chercher, ils vont pas te pousser, les ennemis pas vraiment non plus, il y en a parfois qui se jettent sur toi, mais en fait, justement, s'ils se jettent sur toi, tu restes à couvert, tu les vises, tu les défonces, il y a quelques ennemis, il y en a qui passent sous le sol, et là, effectivement, ils vont te faire dégager, ils vont te faire bouger, mais en fait, il y en a peu, tu vois, ça arrive à très peu de moments.
Et puis, le souci aussi, c'est qu'encore une fois, tous les trucs stylés qu'on peut faire, ça consomme de la jauge d'endurance. Et pour y arriver à faire ces trucs stylés, faut savoir bien consommer, faut savoir être raisonnable, faut savoir quand prendre des risques, etc. Et quand tu commences au début du jeu, en fait, tu vas souvent te retrouver en surcharge, tu vas souvent être puni par cette recharge. Et comme Maxime l'a assez bien expliqué, ça dure longtemps, et quand t'es en surcharge, c'est chiant, quoi.
Ouais,
c'est vraiment relou. Et en fait, je me dis, il y a une punition qui est vraiment pas très très intéressante. Et finalement, je reviens à Bayonetta, je me dis que ce qui est cool dans Bayonetta, c'est que le Witch Time, donc pour l'activer, il faut faire au dernier moment. En fait, quand tu sais pas très bien jouer, tu vas le faire avant le dernier moment. Donc tu seras pas puni, tu vas quand même esquiver le coup, c'est juste que tu vas pas déclencher le truc super bien. Donc t'es quand même dans quelque chose de positif. Alors que là, si tu tentes ton truc mais que tu te loupes, par contre, t'as vraiment une grosse punition. Alors que dans Bayonetta, oui, tu peux te louper si tu le fais trop au dernier moment, mais ça, c'est quand tu commences à fricoter un peu avec le truc, c'est quand tu commences à réfléchir comment jouer.
Truc, c'est que Vanquish, tu te retrouves directement à fricoter avec le côté danger. T'es vraiment sur le fil du rasoir dès le début.
Il n'y a pas un stade de tu joues un petit peu bien et un deuxième stade, là t'es vraiment bon, tu dois prendre des risques, mais il n'y a pas cette espèce de balance-là, je trouve. Et en fait, moi, je peux le dire, quand j'ai joué en 2010, donc peut-être en 2011, je ne sais plus, je ne l'ai pas trop compris le jeu. J'ai eu du mal à comprendre que c'était comme ça qu'il fallait jouer. C'est bien après, en fait, quand j'ai vu toutes les vidéos de gens qui disaient oui, en fait, Vanquish, tu peux faire ci, tu peux faire ça, qu'il faut y jouer comme ça. Moi, j'ai pas capté, et c'est vrai que je finissais souvent en surcharge, et c'était frustrant en fait. Et du coup, le jeu, il a du mal à transmettre tout ça, parce qu'encore une fois, il y avait pas les notes, je savais pas qu'il fallait, je comprenais pas que le jeu, il attendait moi que je joue de manière stylée en fait.
Et après, la punition, en fait, elle est intéressante pour les gens qui, entre guillemets, savent jouer avant le quiz, parce que c'est une punition qui est intéressante dans le sens où, du coup, elle te force à rester sur place. Et quand toi, tu aimes bien jouer, tu prends du plaisir avec les glissades, avec le bullet time dans les airs et tout, quand t'es cloué au sol, t'es ah ouais, je me fais chier. Mais du coup, c'est une punition qui est bonne, tu vois, parce que t'as pas envie de revivre le fait d'être cloué au sol et ça te pousse à bien gérer. Du coup, t'as une optimisation de la jauge et c'est récompensant par le fait de pas être puni.
Sans vouloir réécrire l'histoire, mais il aurait fallu tout simplement, en fait, pas. Alors, on dit punir, c'est un terme qui est un peu fort, mais c'est parce qu'on réfléchit vraiment en termes de design, c'est pas un truc physique, c'est pas une torture.
C'est quelque chose qui est négatif, on crée un sentiment négatif.
Ben, en fait, quand on traîne trop derrière une couverture, il faudrait que sa jauge d'endurance baisse toute seule. Parce qu'en fait, il faudrait imaginer que c'est une sorte de dynamo, vous voyez, et que la truc, en fait, se recharge quand elle se recharge quand on est en glissade. Et bah, du coup, d'un coup, on change complètement la façon dont ça fonctionne. On changerait complètement la philosophie du jeu et on changerait également ce qu'on indique aux gens. Parce que c'est vraiment ce qu'on leur indique. Comme on est dans une logique où le game design permet de communiquer des choses via les actions qu'on va réaliser, bah, quand on communique un truc qui est contradictoire avec le résultat qu'on veut, forcément, si je vais voir Hugo et que je lui dis, écoute, je n'ai pas envie que tu viennes chez moi, bah, Hugo, a priori, il va pas venir chez moi. C'est ça. Alors que même si moi, dans ma tête, je voulais qu'il vienne chez moi.
Mais oui, en fait, c'était une blague. Il avait pas compris.
Après, bon, faudrait réfléchir vraiment à tous les impacts parce que le fait de dynamo, ça risque de vraiment casser le jeu.
Ça changerait des trucs. J'ai dit ça, tu vois, j'ai réfléchi ça en deux secondes.
L'idée, ce serait de mettre des éléments de game design qui encouragent à exploiter les systèmes. Moi, je pense surtout maintenant à Doom, mais je pense aussi à Control, par exemple. Control, ils sont revenus parce qu'on n'en a pas parlé, mais le jeu, il est toujours en mode auto-regen. C'est-à-dire que la santé, c'est pas une barre de santé traditionnelle. C'est un truc où voilà, ça devient de plus en plus flou et après tu restes à couvert et c'est là que ça se recharge.
Donc
ça,
ça crée une
ça crande, voilà, une, c'est bon, tout le temps pense tous les plaies, hein, c'est tout ça. Mais là le problème c'est que dans Control et dans Doom, ce qui est bien c'est que ta vie elle se recharge pas. Pour aller chercher la vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller taper les ennemis, il faut bouger,
aller au contact,
faut aller rechercher. Même si t'en as tué un au loin, tu te dis bon, ok, je prends sa place parce qu'il a droppé de la santé, tout simplement. Et c'est ça qui t'encourage à bouger, rester en mouvement. Là, dans Vanquish, bah, quand tu te prends dans la tronche, vaut mieux rester sur place et se bien se planquer plutôt que de sortir.
En fait, il y a ça. Il y a effectivement, donc, en place, il y a la punition quand tu as mal géré la jauge. Et ça, je suis pas forcément contre ça. Je dis pas qu'on peut pas faire mieux, mais comme dit, c'est quand tu joues, il y a ce plaisir justement d'optimiser la jauge. Par contre, il n'y a pas la carotte. C'est-à-dire, il y a deux façons. De toute façon, en game design, tu as deux façons. C'est pour donner l'envie à quelqu'un de faire quelque chose, soit tu le punis, soit tu lui donnes envie de le faire.
Et en général, tu fais les deux en même temps.
Ouais, c'est ça. C'est comme ça que tu équilibres ton
expérience. On a la punition, mais on n'a pas la carotte en fait vraiment à glisser. Alors à part, comme on l'a dit, c'est quand tu le fais, en fait, c'est bien, mais le jeu te le fait pas très bien comprendre. Et pour moi, le gros souci, et on l'a déjà dit, hein, ça synthétise, mais il n'y a pas la carotte par le level design, il n'y a pas la carotte par le pattern des ennemis, il n'y a pas la carotte par les boss. Ça te donne pas envie vraiment de glisser quand
on
tu
aurait
sais
pu
pas
imaginer
que,
si tu fais un headshot, bah, ça te redonne un peu de jauge. Tu
ouais,
vois,
voilà, ouais,
il
enfin, voilà,
y a plein,
ouais,
plein de trucs.
Ouais,
c'est des petits trucs qu'on a déjà vu dans d'autres jeux.
Consulting de FDG, là,
bien sûr. Mais non, mais c'est des petites idées, évidemment, je pense à ça, voilà, à chaud. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait ce genre de petits trucs là, on comprendrait plus facilement et on prendrait du plaisir. Et surtout, ça permettrait aux gens de vraiment rentrer dans cette philosophie là. Parce que une fois qu'on a pris le pli, clairement, c'est un jeu qui est ultra fun. Là, en refaisant le jeu, je l'ai refait une ou deux fois, ça prend 3-4 heures. C'est ultra plaisant, c'est du plaisir purement esthétique. C'est cette esthétique du jeu vidéo très. Si vous n'êtes pas sensible à ça, vous n'allez peut-être pas forcément comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de notes, etc.
Ah bah non, c'est vrai.
Il y a un autre truc quand même que je note, on l'avait écrit, c'est intéressant, mais il y a trop de phases aussi où tu ne peux pas glisser. Il y a trop de phases où tu es dans un vaisseau juste qui se déplace à ta place et tu vas tirer à partir de là. Tu vas même parfois pouvoir te servir d'une tourelle qui est montée. Il y a une phase de jeu, elle est très bizarre, elle dure. Entre 1 et 5 minutes, je ne saurais pas trop dire, mais tu es sur une espèce de mini plateforme, il n'y a que toi, et là où tu vises, en fait, quand tu fais juste viser, il y a des tourelles automatiques qui tirent là où tu vises. C'est vraiment une phase de jeu, mais tu ne peux pas glisser, en fait. Et ça, je me dis, c'est pas un jeu, tu vois, nous on a tendance à dire que quand même des bons jeux, c'est un jeu où l'intention se transmet à travers plein de trucs, à travers toutes les phases de jeu, les mécaniques, les machins. Et là, en fait, dans Vanquish, j'ai pas l'impression que la glisse a été la colonne vertébrale, en fait, du jeu, où tu te dis, bah ça exploite la glisse comme ci, ça exploite la glisse comme ça, ça exploite les mouvements, le bullet time et tout. Ces phases vraiment où t'es en vaisseau, bah. C'est pas pensé par la glisse.
C'est du rail shooter sans grand intérêt et un peu très classique finalement, symptomatique de cette époque. Et tu dis, bon, bah ça a été mis là parce que bah, ça permet de changer quand même un peu le rythme.
Oui,
ça crée ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas extrêmement intéressant. Et finalement, pour conclure un peu là-dessus, c'est que si tu ne rentres pas dedans, c'est-à-dire si tu ne comprends pas vraiment le cœur de jeu, hein, ce qu'il essaie de te faire, c'est-à-dire ce truc de style, eh ben tout le reste, c'est pas le reste qui va le sauver. Parce qu'on a parlé de la
c'est
musique
bizarre, hein.
Qui est pas ouf. Mais
l'histoire,
le scénario, on l'a dit aussi, c'est nul. La direction artistique, C'est vraiment réaliste, générique, c'est bleu, machin, gris, c'est vraiment pas très intéressant.
Sorti de l'armure, que je trouve extrêmement bien modélisé, extrêmement bien animé, les armes qui changent, c'est top. Mais alors le reste, les robots sur lesquels on tire, enfin, c'est vraiment robot.mp3, encore une fois.
robot.jpeg.
robot.jpeg, non mais c'est vrai, même les gros robots, les méchants, ils sont pas très intéressants.
Ouais, les espèces de grosses boules là, avec les... enfin, c'est vrai que c'est pas très très intéressant. En fait, il y a trop de choses qui sont vraiment médiocres, genre très très moyennes à côté de ça. Et en fait, bah, c'est clair que moi, encore une fois, quand je suis sorti du jeu en 2010, j'étais en mode, mais bon, bah, c'est sûr que c'est pas du tout à la hauteur de mes Uncharted 2, de Gears of War 2, de ces trucs que j'avais fait en fait. J'étais pas du tout. Pour moi, c'était vraiment assez médiocre, quoi. Et c'est sûr qu'en plus, quand tu prends la durée de vie, bah, qui est très très légère, puisque elle est faite pour être jouée, mais si tu joues en mode plan-plan, il y a aucune raison que tu te dises, bah, je vais refaire le jeu une deuxième fois.
Parce que, comme on l'a dit, en plus, tu t'es pas tapé que des D, des E, des F, t'as pas compris que t'as, entre guillemets, mal joué.
Exactement, exactement. Le jeu ne t'a pas dit à la fin, bon, t'as qu'une fraise, quoi. Comme dans
cette... quand tu finis, je crois qu'il y a quand même des espèces de petits défis timés.
À chaque fois que tu termines un chapitre. En fait, à chaque fois que tu termines un chapitre, t'as un challenge qui lui est associé, mais encore une fois, c'est pour les gens qui ont envie de pousser un peu plus de jeu. Si t'as fini le jeu et que t'as trouvé ça pas ouf, ou sinon le challenge, tu vas y jouer en mode cover shooter. Alors je sais pas si ça passe, j'imagine que non pour les plus difficiles, mais si tu l'as pas trouvé ouf, le jeu, t'auras pas envie,
de faire ces trucs là, quoi. Et puis bon, encore une fois, ça doit pas être dans un mode bonus que t'apprends à jouer correctement, genre ah, c'est comme ça que je peux faire, d'accord, très bien. Non, c'est dommage quand même. Et je pense que on pense en tout cas que le jeu il est passé un peu à côté de sa sortie, en partie pour sa manque de transmission. Après, moi je mets quand même sur le dos l'ADA, le manque d'identité, le marketing qui devait pas être ouf. Bref, le jeu
sûr. En fait, comme on le disait, ces références, c'est Gears of War, Call of Duty, qui sont connus pour justement le rythme et l'intensité de leur campagne solo, avec des cinématiques, des moments super badass, etc. Bon, là on n'a pas tout ça. On a effectivement des explosions, il y a des trucs qui font boom et des robots qui envoient des missiles, mais ça reste une mise en scène vraiment de série B, c'est assez cliché en fait, déjà dès l'histoire. Donc malheureusement, il n'y a pas ce truc-là qui va en plus nous attirer et qui va nous dire, bah voilà, le jeu, il a plus à proposer que son gameplay.
Et en fait, c'est trop dommage, tu vois, on refait le jeu, il y a beaucoup d'amertume, parce que tu te dis, en plus, avec le recul qu'on a aujourd'hui, bah on sait que le cover shooter, donc comme on l'a dit à l'époque où Vanquish sort, bon, on est encore en plein dedans, lui, il propose un petit twist, mais en fait, c'est qu'avec des années de recul qu'on se dit, ah oui, mais en fait, c'est le seul à avoir fait ça, tu vois, au moment où Vanquish sort, voilà, comme on dit, c'est un petit twist, mais là, 10 ans après, on se dit, mais en fait... personne n'a fait ça depuis. Tous les cover shooters ont été globalement pareils. T'as cité après, il y a pu avoir du... Alors, c'était un peu différent, mais Deus Ex, Human Revolution, mais je sais pas, Spec Ops The Line. Tu disais un des Hitman, tu vois, qui reprend ça. Et un peu en surface. Alors, lui aussi, il avait un twist, mais Max Payne 3,
ouais,
du Max coup. Il y a quand même la cover,
tu vois. Il y a quand même un peu
voilà,
un twist.
Voilà, il y a le twist, voilà. Ouais. Mais du coup, c'est un cover shooter avec twist. Mais du coup, en fait, déjà, c'est un des différents. Mais par rapport à Vanquish, ça n'a rien à voir. Le jeu, il est vraiment super quand tu joues, quand t'as compris comment en fait toutes les mécaniques qui sont là, ce qu'il y a de fun vraiment dans le jeu il est vraiment très bien, et même aujourd'hui, tu vois, là je l'ai refait, je le trouve toujours très bien, mais tu dis là, et c'est de sa faute en fait, c'est là aussi qu'il y a de l'amertume, c'est que c'est trop dommage de pas avoir eu de Vanquish 2, 3, parce qu'il y avait plein de trucs à faire, parce qu'il y avait plein d'erreurs à corriger du 1, que comme on l'a dit, moi j'aurais préféré des meilleurs patterns qui te forcent à bouger, un level design plus intéressant, des phases voilà moins hors sujet quand tu peux pas glisser, mais c'est un peu de la faute du jeu de pas avoir réussi à transmettre ses émotions. Et je pense qu'on a tout dit quand on a dit tu peux le jouer en cover shooter normal, tu vas passer les 3/4 du jeu sans vraiment devoir te dire ah, est-ce que je devrais bouger. Pour moi, c'est un problème de game design, quoi.
Mais c'est ça qui est important de dire, c'est qu'en fait avec les années, il y a un petit récit qui s'est créé en mode les joueurs ne l'ont pas compris, tu vois. Et en fait, c'est pas la faute des joueurs, c'est pas la faute des gens qui jouaient à d'autres trucs. C'est encore une fois, je pense vraiment, on est tous d'accord quand on l'a tous fait à l'époque, on y a rejoué là, de se dire non, il y a des vrais manquements qui font que, bah justement, ouais, tout n'est pas là pour le comprendre. Et encore une fois, faut aller voir des vidéos YouTube, faut aller voir des machins, de dire ah ouais, tu peux faire ça, attends, il y a cette subtilité là. Le jeu ne transmet pas suffisamment sa proposition, en fait. Et c'est ça, c'est vraiment, c'est pas qu'il a pas été compris, c'est qu'il s'est pas bien fait comprendre.
Ouais, et pour insister un petit peu sur ce truc-là, attention, on n'est pas dans une... pour nuancer, en fait, on n'est pas dans les jeux où il faut aller chercher des informations en dehors, c'est pas bien, parce que bon, moi, ça fait 10 ans que je parle que de jeux qui font ça, et les jeux à wiki, à la Dark Souls et tout, il n'y a pas de problème, mais le jeu nous indique tout un tas de trucs quand on y joue. Il y a quand même les secrets, ils sont là, en fait. Ce que je fais, moi, dans mes vidéos, quand j'explique Dark Souls, je ne fais que expliciter des trucs qui se passent dans la manette. Mais là, dans Vanquish, on n'a pas ces trucs-là. Et c'est vraiment là-dessus, en fait, que nous, on a eu cette amertume, je pense que c'est le bon terme, où on s'est dit, mais c'est tellement dommage parce que c'est du plaisir de jeu qu'on retrouve dans quasiment rien, en fait. Il n'y a pas de TPS aujourd'hui qui procure ce genre de truc.
Oui, c'est ça, vraiment dans le TPS, parce qu'autant le beat'em all, ça existe, mais du TPS fait comme ça, imaginé et proposé comme ça, ouais, c'est vraiment unique, quoi.
Ouais, ouais, il y a très peu de jeux, en fait, qui ont reproposé ce genre de délire avec vraiment du bullet time. Alors, il y a un jeu, pour vous le citer, c'est une petite recommandation de jeu indé qui s'appelle Severed Steel. Si vous aimez les FPS, c'est une espèce de mix entre Max Payne, Matrix, justement, un peu de Vanquish, où en FPS, on est tout le temps en train de courir sur les murs et tout, c'est très plaisant. Toi, tu parlais de Titanfall 2, je crois, où on peut courir sur les murs.
Mais... c'est un peu différent, mais oui, il y a du déplacement assez plaisant dans le jeu.
Et il n'y a pas tant de jeux que ça qui ont repris ce truc-là, et c'est dommage parce que c'est pas. En fait, on n'est pas dans le cas d'un jeu qui était genre en avance sur son temps ou quoi que ce soit. C'est un jeu qui est malheureusement un peu passé à côté de son sujet et qui, je pense, et aujourd'hui avec le recul, il y a tout un tas d'articles et de vidéos de gens qui disent mais si, regardez, Vanquish, c'était ouf. Et ils ont raison, le jeu, il propose un truc que personne d'autre ne fait. Mais nous, ce qu'on avait envie de faire vraiment là avec l'émission, c'est de se dire, accuser les gens quand ils n'ont pas compris, c'est un peu facile. Parce que le game design, c'est justement l'art d'expliquer des choses sans le dire, de le faire comprendre par des mécaniques, par des situations de jeu, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le jeu ne le fait pas vraiment.
Et pour sa défense, peut-être qu'en fait, il se rendait pas compte à l'époque qu'il était si différent des autres TPS, où il s'est juste dit, moi, je vais avoir un twist, les gens vont comprendre qu'avec Glissade, c'est la mécanique. Et en fait, non, les gens, du coup, étaient vachement conditionnés par le fait de rester à couvert. Après, encore une fois, c'est des choses, peut-être qu'ils avaient pas de moyens ou quoi, ou de temps, mais tu dis, avec les playtests, tu devrais voir théoriquement que les gens jouent peut-être trop à couvert ou n'exploitent pas suffisamment les mécaniques. Parce que là, franchement, les 9 dixièmes des mécaniques cachées qu'on a expliquées, elles ne nous le disent pas. Tu vois, autant on peut nous dire, peut-être que les grenades, on nous l'a dit, mais il y a plein, tu sais, le coup de pied vertical sur place, activer le bullet time quand t'es dans les airs. Franchement, moi je le savais pas, donc je l'avais pas fait à l'époque, je l'ai fait en 2017 quand il y a eu le portage sur Steam, et je l'ai pas fait une seule fois, je savais pas. Je l'ai vu sur YouTube là quand je me renseignais un peu sur le jeu, et je l'ai appris, et j'avais déjà recommencé le jeu, j'étais à la moitié, mais une fois que j'ai appris ça, mais c'était mon mot fétiche, tu vois. Mais ça, en fait, le jeu te le dit nulle part, à aucun moment, et j'ai aussi appris, alors je le fais peu parce qu'il n'est pas si pratique, mais le fait de glisser, de taper contre le mur et de rebondir, je ne savais pas non plus, mais c'est cool de le faire quand tu peux le faire. Et c'est tellement dommage qu'à aucun moment, nulle part, vraiment, on te le dise. Et ça, c'est la faute du jeu, quoi.
Et du coup, c'est vrai qu'en plus, c'est un jeu, on l'a pas dit, mais à l'époque, en fait, quand Vanquish sort, Mikami, lui, il est déjà passé à autre chose. En fait, la fin du jeu, il va le même faire en freelance pour Platinum, puisque le jeu, je l'ai dit, est sorti en octobre 2010, et en février-mars 2010, il avait déjà fondé son autre studio qui était dans Tango Gameworks, je crois que ça s'appelle, et qui est donc en lien avec Bethesda. Et il était déjà passé à autre chose. Donc, est-ce que aussi il a peut-être pas été super bien fini? Est-ce que on sait pas? Mais Mikami, lui, il était déjà passé à autre chose. Il va relaisser l'action de côté. Il va repasser au Survival Horror avec The Evil Within 2. Et par contre, peut-être qu'il va y revenir avec le Tokyo Ghostwire.
Mais c'est un FPS là pour le
c'est
coup.
C'est un FPS. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a bossé sur Doom 2016 qui est venu chez eux et qui va bosser sur le système et tout, donc a priori on est plutôt sur un truc très action, même si je crois que c'est pas Mikami le director dessus. Il est pas director dessus.
Et un truc qu'on peut retenir avec toutes ces histoires de Vanquish, c'est que en fait, un jeu, c'est aussi vous montrer que non seulement c'est compliqué à faire, mais aussi il y a toute une histoire de timing, et si les étoiles s'alignent pas, que le jeu il est pas sorti au bon moment et qu'en plus il se présente pas, on peut passer à côté du truc. Et si effectivement aujourd'hui Vanquish sortait comme une espèce de jeu indé ou un truc, tu vois, présenté comme un truc un peu différent, je suis sûr que ça pourrait fonctionner parce que, entre temps, on s'est réhabitué à voir ce genre de mécanique. Le scoring, ça fonctionne mieux aujourd'hui que ce qu'on avait l'habitude il y a quelques années. Vraiment, c'est des fois ça se joue à des choses complètement en dehors de notre contrôle, et ça fait partie vraiment de la réalité et des angoisses qu'on peut ressentir quand on crée des jeux. C'est de se dire, au moment où on va sortir, est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on fait? Est-ce que nous on va être bon dans ce qu'on veut montrer, etc. quoi.
Et aujourd'hui, on lui reprocherait pas une durée de vie courte, ça dépend de son prix, mais à moins que ce soit vendu à 80 balles, mais où on lui reprocherait pas de pas avoir de multi. Et aujourd'hui, il y a peut-être plus, comme on est dans le web 2.0, il y a peut-être un petit peu plus de partage, tu vois, quand les gens maintenant te recommandent Vanquish, ils peuvent plus te mettre une vidéo pour t'expliquer un peu les mécaniques ou quoi, ou si c'est via, je sais pas, le Discord Fan du Game par hasard, ou même moi là, tu vois, je vais dire, je vous conseille vraiment de jouer à Vanquish, et je rajouterai, n'y jouez pas comme un cover shooter normal, c'est pas là que le jeu est fun. Mais par contre, là, ce qui est chiant, c'est que vous allez devoir pas forcément apprendre de vous-même, mais voir un peu sur internet quelles sont ces fameuses mécaniques dont
ouais,
on parle.
Sur YouTube, faut taper genre stylish, vanquish ouais, gameplay ouais, ou un oui, truc voilà. comme ça. Vous allez voir des gens qui font des trucs qui durent 5-6 minutes. C'est assez impressionnant. C'est pas truqué, c'est pas accéléré ni quoi. C'est juste qu'on peut jouer comme ça. Donc vous, ça vous permet de vous projeter en vous disant ah, peut-être que je pourrais arriver à faire ça. Et ça, bah, c'est ce que le jeu devrait faire en fait, nous faire comprendre à un moment donné.
Mais de toute façon, c'est un problème qui marquera constamment Platinum. En fait, ils n'ont jamais réussi à exploser les scores, à part avec Nier Automata. Mais parce que voilà, bon, Nier Automata, il y a eu quand même un alignement des planètes hein, avec ce jeu. Ça a été quand même le succès commercial de Nier Automata. C'est quand même une surprise hein,
ouais,
que
ouais,
c'est
ouais,
marché.
C'est plus ou moins une licorne.
Hein, et puis c'est aussi, bon, c'est beaucoup le jeu de Taro Yoko. Tu vois, retiens, c'est pas que Platinum. Tu vois.
Mais en plus, tu vois, c'est intéressant ce que tu disais sur le fait que si ça sortait aujourd'hui, tu vois, Nier Automata, c'est un jeu qui s'est fait avec la communauté, avec les partages, enfin, qui
bien
s'est
sûr.
Fait sur le bouche à oreille à fond. Enfin, ça a pris 7 sur 10 sur Gamecube quand même, je tiens à le dire. Ouais, tu vois. Ouais. Enfin, les notes n'étaient pas ouf. Mais en fait, après, derrière, il y a eu un mode genre, faut y aller à fond parce que derrière, il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que je pense que t'as raison. Tu vois, si Vanquish sortait aujourd'hui,
ah bah,
il serait décortiqué, game design, machin.
Les gifs, t'aurais, tu sais, Sun Hill Legend,
oui, voilà,
là,
c'est
le
ça,
type
ouais,
qui fait
exactement.
Des gifs incroyables là sur Twitter. Il nous ferait des séquences de fous furieux, ça serait trop beau. On se dirait, ah, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Les gens, ils seraient sur Twitch. Donc, ils verraient des gens avec différents niveaux de jeux qui jouent. Il y aurait des speedrunners, il y aurait des trucs. Enfin, il y aurait en fait justement tout cet élan qui est apporté par le web 2.0 qui permet de montrer et qui participe à la communication des jeux. Enfin, je veux dire, c'est notre boulot à nous, donc on le sait très bien.
Non, mais c'est vrai, même aujourd'hui, tu vois, tu veux rechercher des guides. Tu sais, il n'y a pas les guides comme aujourd'hui, tu vas, je sais pas, Monster Hunter World. Mais là, il y a un milliard de guides, il y a un mec qui te dit tuto, telle arme, telle arme, telle arme, telle arme. Ça, sur Vanquish, moi, je l'ai pas trop trouvé, tu vois. Ça n'a pas été fait.
À l'époque,
parce
hein.
que, ouais, c'est pas encore l'époque. Et ouais, je pense que c'est assez intéressant de se rendre compte, en fait, comment le paysage autour du jeu vidéo, bah, il a changé
oh,
aussi
j'ai cru
notre.
J'ai cru que t'allais inventer un nouveau terme.
Non,
ah, ouais. Quel dommage, on bah, est passé
c'est,
à
bah,
ça.
C'est
on
un
est
peu
passé
le paysage
ça.
Médiatique, en vrai. C'est ça, c'est comment on traite le jeu vidéo de manière différente. Et ça nous permet de le vivre différemment et de donner parfois plus de chance à des jeux qui ont un peu cette carapace qu'il faut arriver à percer. Et ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. De toute façon, voilà, Mikami fait d'autres trucs. Des jeux comme ça, il n'y en a plus. Il n'y a pas eu de Vanquish 2, Vanquish 3.
Oui,
il y a un petit peu, pour le citer, ça me fait plaisir, il y a Warframe qui reprend un petit peu ce concept de glissade sur les murs, de saut, etc. Et vite fait parfois, mais pas vraiment de ralenti. Mais c'est vrai que il n'y a pas eu de fils spirituel de Vanquish. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ah mais tiens, peut-être qu'on pourrait... » Allez-y, foncez. Je vais gagner au loto et je vais venir vous aider.
il faut invoquer le pouvoir de fin du game. Faut que
bon,
Platinum
les mains.
faut que Platinum annonce un Vanquish 2 sans Mikami. C'est pas grave, quelqu'un d'autre peut reprendre le flambeau, j'imagine. Mais bon, on verra. Parce que oui, en plus d'avoir Mikami ailleurs, c'est Platinum qui a l'IP. Bon, ce serait un peu
ouais,
compliqué.
Ouais, non,
mais
je pense que malheureusement c'est fini. Mais voilà, c'était cool de se pencher là-dessus. On n'a pas fait Bayonetta. On a choisi ce jeu qui est, en fait, Bayonetta, comme il est plus clair, je trouve qu'il est un peu moins intéressant à décortiquer. Je trouve que Vanquish, comme il y a cette espèce d'ambivalence dans à la fois ce que le jeu essaie de proposer, son échec et tout. Enfin bref, je trouve que c'était un jeu.
Ça veut pas dire qu'on parlera pas de Bayonetta un jour.
Non,
ou autre,
bien sûr
on sait
non,
pas.
Bien sûr que non.
On ne se ferme pas les portes, nous.
Voilà. Et puis c'est l'occasion. En fait, je sais pas aujourd'hui. Je me rends pas compte à quel point Vanquish est connu ou pas, parce qu'il a un petit statut culte parmi justement occasions manquées. Il y a plein de gens qui adorent Vanquish à très juste raison, mais je sais pas si je crois pas que par rapport à Bayonetta, bon, Bayonetta, voilà, il y a eu le 2, il y a le 3 qui est annoncé sur Switch.
Oui, puis il y a vraiment Nintendo qui pousse le truc derrière. Ouais. Vraiment, il y a un soutien médiatique. Quand le jeu est sorti sur Steam, ces gars, ils ont pas fait une grosse campagne de com. Ils savaient qu'ils allaient pas en vendre beaucoup. Et ben, ils en ont pas vendu beaucoup.
Plot twist. Très bien. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur notre page Patreon pour soutenir cette activité, voilà, qui est la pérennité de cette activité qui est Fin du Game. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le club de lecture Discord. Tenez, voilà, suivez bien, parce que là, il y a des bails, il y a des beaux qui vont arriver assez incroyables.
Lourd.
C'est chaud, ça va être chaud.
Non, mais comme d'habitude, le principe, si vous écoutez l'émission pour la première fois, en fait, on vous donne à l'avance 4 jeux, donc ça vous laisse 2 mois, en fait, vraiment dans une optique de club de lecture où vous allez pouvoir jouer au jeu, en parler avec les autres gens, et comme ça, le jour où nous, on en parle, vous serez un petit peu au courant de ce qui s'est passé, puis ça vous permet, de rencontrer des personnes, d'échanger, de faire des jeux de mots. À longueur de journée, comme ils le font sur le général, qu'on salue évidemment. Et voilà.
Et puis on remercie aussi évidemment Third d'édition, notre maison d'édition sponsor, voilà, qui nous accompagne depuis le début. Vous pouvez aller sur leur site pour voir bah, toutes les dernières sorties.
On Tarantino. A reçu le mail de Mehdi.
Ah, qu'est-ce qu'il dit bah, alors, bah,
en direct, voilà, enfin, en semi-direct, ouais, entre en guillemets, on se comprend.
Qu'est-ce qu'il nous dit ?
On a publié deux livres ciné sur les Wachowski et Tarantino, ça c'était fin octobre, mais voilà, on est quand même, c'est bon. Donc on même s'il avait envoyé ça avant, on aurait voilà. quand même été voilà, dans
il
les
il parle coups. Du bouquin de Marine Max sur les concept art.
Voilà. Ah, on fera la pub pour la prochaine.
On en parlera la prochaine fois, promis.
On embrasse évidemment Marine au passage. Merci encore une fois. On se retrouve donc dans deux semaines. Dans deux semaines, c'est quoi ? C'est les zombies.
Eh oui,
c'est les zombies. Très bien. Merci à tous. Salut.
Ciao. We'll be right back.